la première radio Yaoui, présentée par Étoile, Naït et Pirou. Info, news, scantrad, fansub et bien plus encore. Tout ceci uniquement sur le Yaoui. C'est parti.
Ça commence bien.
Bienvenue sur Halabi, la première radio Yaoui.
On va peut-être commencer par se présenter, hein.
Tout à fait. Donc, moi c'est Pierrot, je suis le seul homme des trois.
Moi c'est Étoile.
Et moi c'est Lane.
Donc, sans plus tarder, on va commencer par expliquer ce qu'est le Yaoui.
Déjà sa prononciation, hein, qui se dit bien Yaoui, et pas Yawa ou Yaoi.
En trois syllabes. Yaoi.
Voilà, qui sont les trois canas, en fait, qui s'écrivent comme ça, quoi. Donc, comme ça, on est vraiment sûr que c'est Yaoi, et pas... On pouvait pas dire que c'est notre idée, quoi. C'est vraiment le mot japonais qui est utilisé comme ça.
Oui. Ensuite, on va parler de l'origine du mot yaoi, qui veut dire...
Qui vient de la phrase yamanashi, oshinashi, iminashi, qui signifie pas de pic, pas de chute, pas d'histoire.
Parce qu'en fait, le yaoi, c'est pas la signification que nous, on a en France. Le yaoi, en fait, au Japon, c'est des scènes homosexuelles, hard.
Voilà, hard.
Donc, il n'y a pas trop d'histoire, c'est vraiment sexuel. Alors que nous, en France, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser plus le mot pour un peu... Tout et n'importe quoi.
Ouais.
Un conte de préciser, Boys Love.
Qui est d'ailleurs un mot qui regroupe tous les genres, donc le yaoi, le shonenai et le tanbi. Tanbi qui veut dire qui est la recherche de l'esthétique absolue, mais qui n'est plus utilisé parce que c'est démodé.
Il y a aussi Juné.
Juné, oui, qui est le nom d'un auteur anglais.
Un écrivain anglais.
Un écrivain anglais d'ailleurs, oui. Et aussi le nom d'une maison d'édition américaine qui ne fait que du yaoi. Ouais.
Après, nous on va dire yaoi. Parce que c'est le nom de l'émission et c'est, voilà.
Voilà, puis les Français utilisent le mot yaoi, donc on va pas utiliser Boys Love, on va utiliser le mot yaoi tout le temps.
Donc, dans le yaoi, il y a du shotin, qui en fait sont des relations amoureuses et sexuelles entre des petits garçons ou un petit garçon et un adulte. Généralement, c'est jeune.
Oui, ils sont souvent très jeunes.
Très jeunes, peut-être même moins de 10 ans.
Ouais, ça arrive des fois, oui, moins de 10 ans largement.
Il y a aussi le barazoku. Qui est du très hard, très cru. C'est des petites bandes dessinées faites par des hommes pour des hommes. Donc c'est des hommes très musclés, très virils. Vraiment, c'est très
quoi,
court
c'est...
aussi.
3-4 pages.
Voilà, 3-4 pages. Et en 3-4 pages, il y a 3 pages qui font que...
Oui, voilà. Ils aiment bien faire des partouzes. C'est vraiment sexuel. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de logique.
C'est juste le plaisir des yeux, quoi.
Voilà.
C'est pour une histoire d'appui risqué. Mais en même temps, c'est pour les hommes, donc...
Oui.
Voilà, donc c'est vrai que, je veux dire, c'est comme nous, pour vous, hein, une image un peu, je veux dire, comme un film de cul, bah, nous c'est pareil, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on a, on veut pas se prendre la tête, on veut dire ça, et voilà. Quoi.
Ouais. Ensuite, il y a le shonenai, qui est plus implicite qu'autre chose, c'est vraiment des bisous, des étreintes, c'est doux,
des caresses,
mignon, voilà.
Voilà, mais jamais de sexe.
Voilà, ça va jamais...
plus développé, hein.
Ça va jamais juste. Enfin, il y a parfois des scènes de sexe, mais c'est pas.
Oui.
C'est toujours pas, c'est
et
pas
encore,
très détaillé.
Et
c'est...
encore, dès que ça commence à être explicite.
Ouais, ouais. C'est juste un petit déshabillage,
ouais.
Des chutes.
Voilà, la rigueur, oui, il va lui retirer un petit peu la chemise.
Voilà,
ou,
voilà. Des préliminaires. Là, on pourrait dire que c'est encore du shonenai.
Ouais.
Donc après, on peut dire aussi que, en fait, il n'y a pas que le yaoi pour l'homosexualité dans le manga. Il y a aussi le yuri, par exemple, qui est en relation femme-femme. Et non, bah,
et explicite.
Explicite le yuri, voilà.
Et à l'inverse du shonenai, il y a du shoujo ai. Voilà. Qui est pareil, c'est plus.
C'est les équivalents en fait avec deux femmes plutôt.
Voilà, mais voilà. Vraiment soft, c'est pareil, il y a plus d'histoire que de relations sexuelles.
Voilà, et même moi qui n'aime pas le yuri, le shoujo ai, ça me dérange pas. Voilà.
Bah, c'est plus psychologique aussi tout ce qui est shonenai, shoujo ai.
Là, c'est vraiment écrit par des femmes pour des femmes aussi.
Voilà, c'est vraiment une histoire qui est développée.
D'ailleurs, en fait, le yaoi, on peut se dire que c'est bien en fait pour la société. Ça permet une meilleure acceptation de l'homosexualité normale, quoi. Je veux dire, pas en manga, mais dans la vie de tous les jours.
D'ailleurs, depuis plusieurs années déjà, c'est plus accepté comme étant des personnes normales qui se promènent dans la rue, deux hommes qui se tiennent la main, c'est pas gênant.
Non, pas du tout. Mais même d'ailleurs, on commence à en trouver partout, quoi, en vente maintenant, même à Leclerc, quoi. On peut trouver les New York à Leclerc, le jus de Chalassouille à Leclerc.
Ouais, partout maintenant.
Voilà, Leclerc qui est quand même un magasin d'une grande surface. C'est-à-dire qu'ils vendent des yaoi, c'est-à-dire que ça montre vraiment que maintenant, il y en a n'importe où, quoi.
Donc, ce qu'il y a aussi avec le yaoi, c'est... faut qu'on parle de la scantrad.
Oui,
oui.
Tout à fait, oui. C'est vrai que c'est...
C'est un pilier dans le monde du yaoi.
Ouais, donc c'est en fait ce que font les maisons d'édition françaises, ça se fait aussi par
des amateurs.
Par des amateurs, par des fans, pour des fans.
Voilà,
des étudiants, souvent.
Ouais, oui, qui ont un travail, qui étudient à côté, qui prennent... leur temps.
C'est une passion pour eux. C'est une passion. C'est...
Ils prennent des mangas donc japonais, anglais ou d'autres, une autre langue.
Non,
espagnol.
Ils les scannent, ils les traduisent et ils font. Bon, il y a tout un système de scan-trad avec.
Oui, voilà, avec toutes les personnes qui permettent au bon fonctionnement de la
voilà. Oui, qui permettent à la scan-trad de fonctionner.
Voilà, oui.
Donc, comme ça, les
il y a toute une équipe, il y a pas, on ne peut pas imaginer qu'il y a une personne en fait, c'est vraiment
ouais,
tout
non,
un
vraiment
cycle avec
monde,
des, au moins 5-6 personnes qui passent dessus. Quoi, pour
même
faire
plus
un seul,
parfois. Ouais. Même 5-6 personnes, c'est pas assez.
Ouais, 5-6 personnes,
même parfois, on galère. Hein. Ouais. Et non, il y a aussi la fan sub.
D'ailleurs, attends, juste avant, en fait, pour la scan-trad, il faut expliquer aussi que c'est légal, on a le droit de le faire tant que le manga n'a pas été licencié dans le pays ou dans lequel on le fait. Donc, par exemple, des Allemands, ils n'ont pas le droit de faire un manga qui est publié en Allemagne, mais nous en France, dire. Si le manga a été acheté par Taifu, Azuka ou Tonkam, on s'en fiche. Mais il faut à tout prix qu'on enlève les liens de téléchargement, tout ça, ça devient illégal à ce moment-là.
Ouais.
Mais la scan-trad en elle-même est légale. Voilà, souvent les gens nous disent que c'est illégal ce qu'on fait ou des choses comme ça. Et...
Ça plaise pas. Hein.
Voilà, ou ça plaît pas, oui. Ça peut pas, des fois, je pense que les maisons d'édition le voient mal aussi. Ils doivent pas trop aimer quand même.
Il y a quelques maisons d'édition qui ont demandé à certaines teams de scan-trad d'enlever leurs liens, justement.
Ouais.
Bon, c'est toujours plus sympathique de prendre un bouquin et d'aller le lire
l'avoir dans les mains.
Mais bon, vu le prix aussi, et puis c'est vrai que de plus en plus, là, le yaoi débarque en France, mais il y a quelques années, c'était rare, donc la scan-trad était vraiment indispensable.
Donc je disais plutôt la fansub.
Qui, au passage, se prononce fansub, mais Pierrot et moi, on prononce très souvent fansub.
Bah, je trouve que d'ailleurs, en fait, les proportions sont bien respectées là. Là, on est deux, on est trois, donc on est deux à prononcer fansub et une à prononcer fansub. Et il y a eu un sondage qui a été fait sur la team de Yaoi Uji, qui est justement une team de fansub, et qui montre bien que 65% des gens prononcent fansub.
Oui, d'ailleurs, il faut savoir que c'est fansub, parce que ça vient du mot subtitle, qui se dit sub. Et donc, mais bon, les gens le prononcent comme ils veulent, fansub, fansub, c'est pas grave.
Ouais, donc vous entendrez plus souvent fansub d'ailleurs, parce que comme on est deux justement.
Mais
voilà.
On s'excuse d'avance, hein.
Voilà.
On fait pas exprès, ça nous semble plus normal.
Voilà, tout à fait.
Donc, la fansub, qu'est-ce que c'est? C'est des animés, sous-titrés par des fans, encore pour des fans.
Voilà, toujours pareil, toujours bénévolement. C'est gratuit, c'est.
Ils prennent les animés du Japon.
Ou alors, des fois, comme avant qu'il est papa, on a eu les animés en anglais où ils avaient rajouté les sous-titres en français par-dessus parce que la version japonaise n'était pas encore disponible, la RAW comme on dit, donc la version originale.
Donc il y a plusieurs méthodes de retranscription. Quoi.
Voilà, souvent c'est le DVD du Japon qui est acheté, importé et
ensuite ils mettent les sous-titres.
Donc on a une qualité souvent, généralement, assez bonne. Quoi.
Ouais. Il y a aussi des adaptations de mangas en roman, comme je citerai Only the Ring Finger Knows, donc c'est un manga de Otaru Odagiri. Et que Lynx ne connaissait pas. Et il y en a de plus en plus, autant dans le monde de la scan-trad. Enfin, c'est pas vraiment de la scan-trad parce que c'est des romans.
Ouais, mais c'est quand même.
Il y en a moins, mais c'est vrai que ça compte.
C'est vrai qu'on en entend moins parler quand même que le manga.
Mais parce que là, il faut lire.
Ouais, et les gens, c'est vrai que quand ils n'ont pas les dessins.
Ouais, donc comme je disais, c'est plus des romans que des mangas. Mmh. C'est que du texte.
Ce qui est en plus court aussi, c'est les fanfictions. Les fanfictions qui sont d'ailleurs tirées de. Principalement d'œuvres très connues comme Harry Potter, Naruto,
Bleach.
C'est des gens qui reprennent l'histoire de base.
Ouais, c'est du détournement.
Voilà.
Ils détournent leur personnage préféré en yaoi. Et
donc il y a des histoires d'amour entre hommes.
C'est des choses qui sont pas souvent très longues, qui font quelques pages à lire sur Word par exemple.
Ouais,
qui sont, moi j'aime bien des fois, il y en a certaines qui sont très, très attachantes.
Très bien écrites. Hein.
Ouais.
Il y en a certaines qui sont...
Des fois même, c'est pas forcément l'âge de la personne, hein. Il y a des personnes qui ont 13-14 ans, qui arrivent à écrire des fanfics vraiment très très bien. Quoi.
C'est une autre façon de se rapprocher du yaoi et d'être avec ses personnages.
Ça permet d'essayer du concours aussi à son imagination un petit peu. Quoi.
Ouais.
À les voir d'une façon dont on aurait bien voulu les voir dans un tome, par exemple.
Ensuite, il y a les doujinshi, donc c'est des petites bandes dessinées, aussi dessinées par des auteurs amateurs ou professionnels.
Oui.
Qui dessinent sur leur série préférée ou...
Qui là, comme par hasard, on a dit pour les fanfictions, qui reprennent Naruto, Bleach...
Voilà, c'est comme la fanfiction, mais avec des dessins.
Voilà, c'est vraiment... le format est plus grand, il y a moins de...
Ouais. De pages un peu quand même.
C'est vraiment pour faire une histoire d'amour entre les deux personnages préférés.
Ça peut varier. Un doujinshi peut aller de 20 pages à 120 pages.
Il y a plus de pages qu'une petite fille, quoi.
Oui, voilà, par rapport à la musique.
C'est surtout du dessin aussi. C'est du dessin.
Oui, c'est du dessin, oui, c'est du dessin. Oui, c'est du dessin.
Donc là, on pourrait peut-être le comparer à, à un manga.
Oui.
Mais, ouais, je...
Non, c'est vrai que c'est le doujinshi, quoi, c'est vraiment quelque chose à part. Quoi.
Ouais.
Et donc après, donc, dans le yaoi, il y a pas mal d'OST, donc original soundtrack.
Ouais.
Qui
sont tirés des animés.
Sont tirés des animés.
C'est les musiques d'ambiance qu'on entend dans les animés.
Voilà, les musiques d'ambiance, oui.
Les endings, les openings.
Voilà.
Entre autres, oui, par exemple. Ouais. Après, il y a aussi les caractères songs, donc c'est vraiment les chansons pour un tel ou tel personnage.
Un personnage chante sa chanson, ça le caractérise généralement. Ouais. Il y a aussi.
Non, vas-y.
Il y a aussi des CD dramas. C'est des dramas.
En fait, ce sont des mangas qui sont lus par des japonais, donc c'est les seiyuu. Donc en fait, c'est comme si on écoutait quelqu'un lire un manga en japonais.
Il en existe pas en France, non? Pas encore.
Mais pas encore, non.
Non, ils sont pas traduits.
Ça commence à être connu, mais c'est pas totalement connu.
Il y a une team de Scantrat qui se lance là-dedans, c'est Aininate. Hein. Ils vont sortir un CD drama. On ne sait pas ce que ça va donner, mais je leur souhaite bonne chance.
Mais d'accord, moi j'aimerais bien l'écouter, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir le manga et en même temps et le CD drama, ça peut être pas mal.
Ensuite il y a des goodies.
Ouais, il y en a beaucoup. Hein.
Qui sont des objets quoi, des petits produits dérivés de.
Ouais, des jeux de portable, des posters.
Qui sont tirés des animés yaoi.
Donc ou des mangas d'ailleurs.
Ou des mangas.
Ouais. Pour rappeler. Nos séries préférées, pour avoir quelque chose.
Ouais, pour
de toute façon, c'est vrai que quand c'est en animé, il y a toujours eu le manga ensemble.
Ouais.
Un manga n'est pas forcément fait en animé, mais un animé a forcément été fait en manga.
Manga, ouais, il y a toujours un manga derrière, derrière un anime. Okay. Ensuite,
on va commencer à dire de quoi on va vous parler dans l'émission.
Du yaoi.
Bah oui.
Il y a que du yaoi.
Bon, d'accord, c'est bon, je m'étais. Je te laisse.
Donc.
Oui, alors dans une première partie, on va parler de Kizunal, le manga et l'anime.
On va faire des comparaisons.
Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on va les faire découvrir et pour les autres, bah, peut-être leur apprendre des choses aussi qu'ils n'auraient pas vu éventuellement. Ou assister à une réflexion. Voilà. Juste après, on va parler d'un auteur. Alors cette semaine, ce mois-ci, on a pris Yon Koga, qui n'est pas un auteur très très connu. Seule. Elle est connue parce qu'elle a écrit Loveless. Et ce manga étant très connu, ben voilà.
Ouais, c'est vrai que moi, le nom Yon Koga me dit rien. Mais le Loveless, quoi, je veux dire, c'est mondial. Bah, c'est pas moi, c'est mondialement connu, quoi. Je veux dire, c'est connu en Amérique, tout ça.
Ouais.
Mais on arrive mal à redonner un nom sur un nom de manga, ouais. Vraiment, on arrive mal à refaire le rapport. Donc, juste après, on parlera de l'animé qu'il est papa. Avec les deux OAV qui sont disponibles.
On a regardé récemment.
On a regardé, oui, c'est tout frais. Hein. Bon, juste pour se rappeler, parce qu'on les a déjà vus quand même. Mais...
Ouais.
Ensuite, on va faire un flash info avec un récapitulatif des dernières sorties manga en France. Mais aussi, on va pas parler que des licences en France, on va parler aussi du monde de la Scantrad, les dernières sorties Scantrad et Family Sub.
Ouais.
Et on va changer un petit peu de team de chaque mois.
Ouais, et chaque mois, on va changer de team de Scantrad, histoire de pas faire toujours le même.
Ouais, on fait de la pub en même temps, hein, on fait connaître.
Voilà. Parce qu'il y a des teams de Scantrad qui sont très peu connus, qui pourtant font du yaoi assez régulièrement. Quoi. Il y en a certains qui ont fait juste un ou deux projets, mais il y en a d'autres qui ont fait du yaoi assez régulièrement.
Ce sont des petites teams très respectables, hein, qui font
des bons boulots, mais qui sont mal connus, malheureusement.
On va les faire connaître.
Voilà. C'est notre principe.
Et ensuite, dernière partie, on va faire l'horoscope yaoi.
Présenté par Link.
Ouais, ça va être joli, hein.
Ouais, c'est ça, bande de lâcheurs là.
Bah,
donc après, maintenant.
Après, on va vous en fait vous retrouver tout ce sommaire et tout ce qu'on va dire pendant l'émission sur le forum yaoi dream qui héberge la radio sur la page destinée vraiment à la radio.
Voilà. Et maintenant, si on vous a pas endormi, on va vous passer une petite musique qui est l'opening de l'OAV 3 de Kizuna, qui est Aisuru Dake Jata Linayo, qui est chantée par Okeno Masayuki.
Kamu shite, kamu shitai, setsuna.
Cette fois-ci parler de Kizuna, l'anime et le manga. Ça sera présenté par Étoile.
Essentiellement.
Oui, on va essayer d'interagir un petit peu. Hein.
Bah quand même.
Donc c'est à toi.
Oui, donc je vais commencer par vous présenter l'auteur, qui est Kazuma Kodaka. Elle est née un 19 septembre à Kobe. Sa carrière, elle débute en 89, hein, où elle débute dans le magazine Shonen Champion. Comme tout le monde le sait, son style de prédilection, c'est le yaoi. Les termes qu'on a expliqués plus tôt. Elle a aussi fait beaucoup de doujin, notamment sur Fullmetal Alchemist ou Hikaru no Go, donc parmi tant d'autres. Et ses mangas les plus connus à ce jour sont Kizuna, qui sont publiés aux éditions Tonkam en 11 volumes, et Not Ready Sensei, qui va bientôt être publié, toujours chez Tonkam.
Mais elle a pas fait que ça, elle a fait aussi Boku no Sexual Harassment, mm-hmm. Elle a fait les dessins,
oui.
Et donc c'est pas elle qui a fait l'histoire. Hein.
Qui est un animé.
Voilà.
Oui, mais Kizuna et Not Ready Sensei, c'est des mangas qui vont être publiés en France.
Voilà, donc, dont elle est l'auteur, scénariste et dessinateur.
Voilà. Donc, concernant le manga, le premier tome de Kizuna est sorti au Japon en 1992, et ce n'est que 12 ans plus tard, en 2004, que Tonkam a gentiment décidé de nous sortir en France.
Comme quoi, ça montre bien qu'on est vraiment en retard au niveau yaoi.
Voilà, quoi. Parce que 12 ans, c'est énorme pour un manga.
Par rapport au Japon, ouais.
Donc au Japon, les fans, ils ont dû attendre en moyenne 2 ans entre chaque tome. Par exemple, le tome 1, il est sorti en 1992, le tome 2 en 1994, le tome 3 en 1996, etc.
2 ans, c'est énorme.
C'est vraiment énorme,
je pensais pas là, franchement.
Et nous, les fans français, on a été plus chanceux, puisqu'on a, on a attendu 12 ans. On a attendu 2 à 3 mois, grand maximum, à la sortie du manga.
Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils attendent très longtemps avant de sortir un manga en France, du Japon. Peut-être parce que justement...
Surtout qu'en plus, c'était sûrement les premiers yaoi à sortir en
France. Oui, Kizuna a été le deuxième. Voilà. Parce qu'il y a eu Fake d'abord.
Il n'y a pas eu Zetsuai.
Ah oui, il y a eu Zetsuai d'abord, ouais.
Et donc c'est vrai que le souci, c'est qu'ils étaient peut-être pas sûrs que ça accroche. Donc s'ils commençaient une série comme ça, et que finalement... Bah,
c'est une longue série, hein.
Voilà, ils étaient obligés d'arrêter au tome 3, au tome 4. C'était de l'argent perdu pour eux.
Ouais.
Donc ils ont peut-être préféré attendre d'être sûr qu'il y en ait 8-9 qui sortent. Et comme ça, moi, ils se sont dit, on aura une marge à peu près. Quoi.
Voilà.
Ouais. Mais de toute façon, le rythme de parution l'a beaucoup ralenti au moment des derniers volumes. Et on a attendu aussi, les fans français, on a attendu aussi 2 ans entre le 9 et le 10, et le 10 et le 11. Ça a été vraiment... par exemple, le tome 10, il était sorti à la Japan Expo de 2007, je crois.
Il me semble.
Et tout le monde était en effervescence. Tous les fans de Yaoi, c'était « Ah, le tome 10, il est sorti, on va l'acheter. » Il était en rupture de stock totale dès le premier jour.
Ça montre à quel point le yaoi était vraiment attendu.
Ouais,
il commence à se faire connaître, mais ouais, il a tout de suite plu, quoi.
Ouais, mais tout le monde se rappelle encore l'effervescence que ça a suscité, les cris hystériques.
Même le 11, hein. Moi, le 11, je connaissais pas encore trop le yaoi. Et quand j'ai entendu parler du tome 11 qui allait sortir, mais ça en parlait partout, quoi. C'est vraiment attendu. C'était une sortie attendue, quoi, le tome 11 de Kizuna.
Ouais, mais il faut aussi savoir que Kizuna, c'est l'un des premiers mangas yaoi à être paru en France, comme on l'a dit.
Ouais, le troisième.
Précédemment. Et donc, fort de son succès, il a gagné un public sûr. Donc, les
pour yaoi, ça devient une référence. Hein.
Ouais, c'est vraiment une référence. Quand on parle de yaoi, forcément, à un moment ou à un autre, on va parler de Kizuna.
Que ce soit en animé ou en manga.
Ou en manga, ouais. Bah, surtout le manga. Surtout.
C'est l'un des premiers mangas qu'on lit, quoi.
Ouais. Donc, concernant l'histoire, donc c'est l'histoire de Ranmaru et Kei Enjuji. Ils forment un couple. Dès leur entrée à l'université, ils ont pris un studio afin de vivre ensemble. Mais bon, leur vie, c'est loin d'être un fleuve tranquille, comme dans tous les mangas. Et un jour, le demi-frère de Kai, il débarque chez eux, sans le moindre préavis. Et là, c'est le commencement d'interminables soucis. Donc là, j'ai pris le résumé du tome 1. Et donc, c'est un résumé complètement exhaustif, puisque c'est que le début, il y a 11 tomes, je le rappelle. Et donc, au fur et à mesure, il s'avoue de nouveaux sentiments, même s'il s'aimait déjà. Pour ceux qui connaissent, vous voyez de quoi ça parle.
Il faut peut-être aussi dire dès le début que ça parle beaucoup de kendo.
Oui, c'est le kendo, c'est le sport que pratique Ranmaru.
Ouais, mais c'est pas vraiment que le sport qui est pratiqué, c'est vraiment quelque chose qui suit tout le long de la série, l'animé, c'est vraiment quelque chose.
Kai et Kai, ils en font, quoi. Tous les trois personnages, ils en font, ouais.
Bah justement, là, je vais présenter les personnages principaux.
Voilà.
Donc, on va en savoir plus. Donc, Ranmaru Samejima, à la base, c'est un kendoka. Il est très talentueux. Il tient ce talent de sa défunte maman. Et suite à un accident tragique, tout le côté droit de son corps a été paralysé. Et de ce fait, bah, il ne pouvait plus pratiquer le kendo. Mais il y a eu Kei qui a été à ses côtés, il a suivi une rééducation stricte et sévère. Il a vraiment été très sévère avec lui-même, il a poussé son corps à ses limites.
Et il faut dire qu'ils se sont rencontrés avant qu'il ait eu cet accident. Hein.
Oui, donc mais au début du manga, ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Je suis l'évolution du manga.
D'accord.
Non, c'est vrai qu'en fait, on parle vraiment qu'il venait aussi en animé. C'est vrai que dans l'animé, c'est pas tout comme ça. Parce que dans l'animé, ils se connaissent avant. Il a l'accident et c'est parce qu'il sait finalement, c'est parce qu'il aime comme il aime toujours, ben il va l'aider.
Oui,
ben
oui.
C'est vrai que là on s'aperçoit que les animés respectent pas forcément le manga.
Ouais, il y a toujours des différences de toute façon.
C'est dans un sens aussi un peu pour faire plaisir à tout le monde, quoi. Peut-être qu'il y avait des choses qui ne plaisaient pas. Et,
ouais, c'est peut-être aussi pour reprendre des personnages et changer un tout petit peu l'histoire pour que. Bah, changer un petit peu quoi.
Ouais, déjà aussi.
Et ça reste toujours dans le même contexte avec les kendo. Espèce de rivalité avec le demi-frère de Kei qui essaye de s'initier, qui est amoureux de Ranmaru. Et voilà, c'est pas la même histoire parce que justement, ils veulent peut-être inciter les gens à aller jeter les mangas et les lire.
Donc, Lana va retrouver petit à petit l'usage de ses membres. Et ça va lui laisser une chance d'entrevoir à nouveau la pratique du kendo. Mais et il ne le fait jamais savoir, mais il aime Kane vraiment à en mourir. Il protège la relation que Kay entretient avec Kai, son demi-frère, qui se déteste. Mais Lan, il espère en fait les voir s'entendre comme deux vrais frères. C'est mignon. Lan a toujours été à l'écoute de Kai. Parce que Kai, il est un petit lycéen, il a 16 ans au début de l'histoire, il ne sait pas trop où il en est. Lan, c'est comme un conseiller pour Kai, autant dans sa vie amoureuse que dans la verre, mais beaucoup plus amoureuse. Il faut que je précise que Lan, c'est le hooké dans la relation qu'il entretient avec Kai.
Il faut aussi dire que le hooké, c'est celui qui se fait pénétrer.
Donc voilà, on vous a expliqué ce qu'était le hooké. Je continue avec la présentation de Kai et Joji. Donc c'est le fils illégitime d'un chef de Yakuza qui est basé à Osaka.
Les Yakuza, il faudrait peut-être préciser aussi ce qu'ils représentent au Japon. C'est des personnes qui sont généralement comme les tueurs à gages en français. Bon, on peut pas trop les comparer à ça, mais c'est plutôt ceux qui font voilà, des boulots comme ça, je veux dire, faire transmettre un message à d'autres personnes, qui sont toujours habillés en noir avec des lunettes de soleil.
On a une vraie fratrie.
Voilà. C'est vraiment un clan bien formé, quoi. C'est vraiment quelque chose de...
Il y a beaucoup de clans aussi. Hein,
ouais.
Ils ont confiance en eux.
On les compare toujours à des racailles.
Ouais, mais ils sont quand même bien habillés, ils sont habillés en costard et tout.
Ouais,
oui, mais bon, ouais. Enfin,
ouais, c'est vrai
blanchi.
Qu'ils font peur. Voilà, ouais.
Bon, voilà.
Avec des lunettes de soleil, tout ça.
Ouais.
Bref, donc Kay, sa mère, elle voulait pas en fait qu'il mène une vie de Yakuza. Et donc elle décide de s'enfuir alors qu'elle était enceinte de Kay. Mais elle est morte peu de temps après sa naissance. Et avant de rendre son dernier soupir, elle avoue tout à Kay, de ses origines à maintenant, dans une lettre qui lui est destinée. Kay, lui, il est immédiatement tombé amoureux de Lan dès qu'il l'a vue. Leurs débuts ont été un peu houleux, donc Lan s'est presque fait violer. Bon, il était un petit peu consentant, donc c'est un presque viol, on va
dire. Ouais.
Et Lan, en fait, il a enfin accepté les sentiments amoureux qui le liaient à Kay. Kay, lui, il ne cesse de répéter qu'il aime, je t'aime, Lan, il l'embarrasse tout le temps, à tout bout de champ. Et plus tard dans le manga, il lui a même offert un anneau, et ils se sont prononcés sur leurs vœux, sur un lit d'hôpital, donc c'est pas très romantique.
Dans le tome 6, il me semble, c'est ça?
Je sais plus exactement
que
dans quel tome.
C'est le tome 6.
C'est le tome 6?
Oui.
Donc,
le tome 6, c'est la demande en mariage.
Ouais, donc voilà. Ils prononcent leurs vœux dans l'hôpital. Et donc... Kay, il a un demi-frère qui s'appelle Kay Sagano, qui est l'héritier du clan de Yakuza du père. Il se déteste littéralement, mais Kay, il garde toujours un œil bienveillant sur son adorable petit frère. Ah. Et lui, dans la relation qu'il entretient avec Lan, c'est le sémé.
Donc le sémé, il faudrait rappeler aussi que c'est celui en fait qui pénètre l'autre,
voilà.
Cette fois.
Je vais maintenant passer à la présentation de Kay Sagano. Donc c'est le demi-frère de Kay, il a 16 ans, et c'est le fils légitime du chef du clan de Yakuza, du père. Il se fiche complètement d'être à la tête du clan ou non, c'est surtout Massa, donc ce Massa, je le présenterai tout à l'heure, qui est désigné pour devenir le chef. Ses relations avec son père sont très actifs, hein, entre guillemets, mais son père l'aime sincèrement et il ne veut que son bien. Ils passent leur temps à se disputer, même si quand Kay a annoncé son homosexualité, le père l'a pas très bien pris, mais finalement ça a été une fin un petit peu spéciale et rigolote. Il fut un temps où Kay était très amoureux de Ran, et il est aussi très doué au kendo et il rêve de pouvoir défier son senpai. Dans l'un des tomes, il va réussir à
le
défier.
C'est un petit peu ce qu'on retrouve souvent dans le yaoi quand même. Souvent c'est l'élève qui veut dépasser le maître ou justement la...
Mais Kay, c'est pas l'élève de
Non, mais
de
je veux dire, le senpai, quoi, c'est toujours... Non, il y a le senpai, c'est un peu le dieu et...
Oui.
Qu'on essaye d'atteindre...
Ouais, voilà. C'est toujours un but, un point, il y a un objectif, je sais pas comment vous l'appelez, mais...
Ouais, mais...
C'est aussi un exemple pour lui, hein.
Quoi qu'il en soit, Kay, son rêve, c'est de battre Lan. Sa relation avec Massa est vraiment très complexe du début à la fin. C'est « Je t'aime moi non plus » jusqu'au volume 10, au moins. Tout le long. Et on a droit à tout... Massa et Kay, c'est vraiment une relation chaotique. Kay...
Ils passent beaucoup de temps ensemble, hein.
Oui, ils passent beaucoup de temps ensemble, justement. Justement, en fait, Kai, comme il est jeune, il a plus de facilité à dire ses sentiments que Masa. Parce que Masa, il sait qu'il a des obligations envers Kai. C'est pour ça qu'il dit « Ouais, vous êtes mon petit maître, je peux pas vous toucher,
ouais,
etc. »
Il le protège,
mais en même temps, il est amoureux. Donc, au début du manga, Kai se fait violer par un ancien amant de Masa. Et il se retrouve blessé, autant physiquement que moralement. Il a des coupures partout, bref. La totale. Et à partir de ce moment-là, c'est à ce moment-là que Masa décide de tout faire pour le protéger. Donc ses actions, elles ne sont pas toujours au goût de Kai, évidemment, parce qu'il n'a pas des... C'est un yakuza, donc il n'a pas des méthodes très orthodoxes. Mais il comprendra petit à petit que c'est pour son bien-être, et il acceptera ses gestes, même si cela implique qu'il ne pourra plus se voir comme amant. Donc ça, cette partie du manga est vraiment très triste, j'en ai eu les larmes aux yeux, bref. Et donc, l'histoire d'amour de notre couple, bon, ça sera bien rempli de péripéties, mais bon, comme c'est un manga, il y a oui, tout rose, tout beau, ça peut se finir dans le meilleur des mondes avec des petits oiseaux et des petits cœurs. Et étoiles s'emportent, hein.
Voilà, un petit peu.
Donc,
t'as pas pris tes cachets, étoile. On va aller te chercher si tu veux.
Non.
C'est sûr.
Et vous êtes pas sympa, je prends pas de cachets.
Tu devrais, hein.
Oui, ça t'apprend pas, tu devrais, hein.
Bref, on passe à la présentation de Masa. Donc, son titre, son nom entier, c'est Masanori Araki. Donc, il a été choisi par Sagano Senior pour être le futur chef du clan. Il protège ses subordonnés, il est très apprécié dans le milieu. Hein. Il est fort, il est beau, moi. Cependant, bon, ces méthodes, elles peuvent se révéler autant cruelles que sanglantes, très sanglantes. Et quand c'est réellement dangereux, ben, il le fait, même si c'est pour protéger les gens qu'il aime. Oui, je vois là.
Mais arrête.
Essaye, on parle d'un beau gars là.
Tout de suite, de toute façon. Hein.
Mais oui.
Oh là là. Bon. Masa a été amoureux de la mère de Kai, parce que. Avant de tomber amoureux du fils, hein, parce que Kai ressemble beaucoup à sa mère, il a les mêmes cheveux, les mêmes yeux, les mêmes bouilles, quoi. Au début, Kai croyait que c'était parce qu'il ressemblait justement trop à sa mère que Masa le dorlotait, mais bon, au fur et à mesure de l'histoire, il se rend compte des véritables sentiments qui est lié à son petit maître. Il n'hésite pas une seule seconde à éliminer celui qui a violé Kai. Et quand ce dernier le supplie de ne pas le faire, eh ben, il le fait quand même parce qu'il a touché à Kai... Et il n'a pas supporté. Et cette histoire, elle a laissé énormément de séquelles à Kai. Il a été traumatisé pendant un bon bout de temps. Mais Masa, il est allé très lentement avec Kai. Il a été très patient. Et, parce qu'il savait que Kai avait souffert.
C'est vachement romantique, en fait.
Mais oui. Masa, qu'on voit quand il dorlote Kai à ce point... Dans l'histoire, on voit vraiment qu'il fait vraiment tout pour le protéger, qu'il veut pas le faire souffrir.
C'est vraiment une belle preuve d'amour.
Ouais, ils sont vraiment amoureux. Mais il y a nos deux tourtereaux, ils sont sans fils. Finalement, sorti à mer. Et ça, c'est trop mignon. Et donc, voilà pour la présentation des personnages. Au fil des histoires aussi, il y a des personnages qui font leur apparition comme Toshiro ou Tashiro, ouais, quelque chose comme ça. Tashiro, je crois. Mais on n'a pas le temps de tout. C'est vraiment des personnages.
Présenter les personnages principaux. Quoi.
Ouais, voilà, c'est vraiment les quatre personnages principaux. Donc, concernant l'évolution du manga, bon, je vous cache pas que les dessins du tome 1 ils étaient absolument horribles. C'était immonde.
J'ai eu du mal à accrocher moi au début. Hein.
Les personnages ils sont pas beaucoup travaillés, c'est brouillon. Les personnages ils ont pas de ventre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est monstrueux.
C'est vrai que même moi là, j'ai des sous les yeux.
Ouais,
tu comprends que c'est quand même une vieille série, quoi. On peut comprendre, voilà, c'était du dessin.
Alors qu'à la fin, c'est magnifique. À la fin, tout est magnifique dans le manga. Hein.
On voit qu'elle a fait des progrès. Hein.
Bah, comme tous les auteurs, parce que tous les mangakas en général.
Mais peut-être que Kizuna, là, on voit plus ce contraste entre le premier volume et le dernier volume.
C'est vraiment un beau contraste. Le premier
déjà,
tome.
Apparemment, il n'y avait pas trop d'ombre dans le 1, et c'est vrai que ça donne pas de forme, quelque chose d'assez plat, quoi.
Ouais.
Alors que les ombres, ça donne un peu de volume et...
L'histoire reste à peu près la même, mais c'est vrai que les dessins...
Non, l'histoire suit une parfaite évolution, c'est très logique, mais c'est juste les dessins. L'évolution du dessin, du 1 au 11, c'est pas du tout... On dirait que c'est d'autres dessins, en fait.
C'est tant mieux, dans un sens.
Ouais. En plus, dès les 20 premières pages du tome 1, on a droit à un presque viol. Youhou, super. C'est super, c'est du yaoi, après tout. Les personnes dans les yaoi se font violer au moins une fois. Hein.
Oui, ou alors il dit qu'ils sont pas consentants, mais au fond
de... Genre, c'est un test à passer. Mais voilà, c'est Kizuna. Et quand on arrive au tome 11, on est fan, on adore, on crie quand Masa et Kai passent à l'acte, c'est si beau. Et bon, les dessins se sont vraiment améliorés, c'est super beau, c'est chou.
Et même déjà les couvertures.
Ouais.
Rien que les couvertures, c'est vrai qu'on sent une évolution sur la couverture, quoi.
Ouais, les couleurs.
C'est très simpliste.
Ouais. Avant, c'était plat. Ouais.
Voilà, ça a toujours été Lan Malou et Kei. Mais après, c'est vrai que dans les tomes.
À partir du tome 8,
on commence à mettre d'autres personnages, des couleurs plus vives, des petits motifs.
Plus de dessins.
Plus de détails aussi, dans les vêtements, l'expression des visages aussi. Mmh. Donc moi je suis tombée amoureuse de Kizuna, c'est vraiment un de mes mangas préférés. Et c'est une histoire qui tient bien la route, il n'y a pas trop de choses inutiles, et les dessins ils sont pas trop crades. Et à la fin, on a des étoiles plein les yeux tellement c'est beau. Bon ben voilà, vous m'avez compris, c'est vraiment un manga, bon, il faut vraiment pas passer à côté, c'est un manga que je conseille à tous, mais vraiment. Et vous passerez un très bon moment
pour toi,
à lire.
Tu penses qu'il peut plaire vraiment à tout le monde?
Ah, vraiment à tout le monde, c'est tout public, tout public yaoi. Et puis 11 volumes, ça se lit vite. Et puis surtout, si on est dedans, on lit le 1, puis le 2, le 3.
J'ai une question, est-ce qu'ils sont toujours édités?
Ils sont toujours édités, oui.
Ils sont toujours édités parce que je sais qu'il y a des tomes qu'on peine à trouver maintenant quand même.
Ouais, par exemple, le tome 1, il n'était plus édité nulle part. Et c'est quand le tome 10 est sorti qu'ils ont recommencé à éditer le tome 1.
D'accord.
Et le reste.
Comme il y a des séries qui sont plus éditées, c'est pour ça que surtout chez Tonka.
Elle est ancienne, mais elle plaît beaucoup, ils s'en rendent compte. Donc oui. Forcément, ils relancent des éditions, quoi.
D'accord.
Mais c'est une bonne chose.
Oui,
c'est une bonne chose. Et puis, Kizuna, les fans d'avant, ils ont pas forcément. Par exemple, ceux qui viennent de commencer le yaoi, ils savent pas forcément ce que c'est.
Par quoi commencer.
Voilà.
C'est vrai que pour commencer, je pense que ça pourrait être une bonne série alors.
Ouais, c'est une très bonne série, ouais. Je la conseille vraiment à tout le monde. Enfin, c'est mon coup de cœur à moi. Après, bon, chacun a des goûts différents, mais moi, c'est une série que je conseille vraiment à tout le monde. À commencer par toi, Pierrot. Tu les as pas encore lus?
Bah non, je les ai pas encore, non.
Voilà, je te le conseille.
D'accord, bah, je vais essayer de le faire, alors.
Donc, on va rapidement parler de l'animé qui est en 3 OAV.
Oui, donc là, on venait parler du couple Kai et Masa. Ça serait bien de dire aussi l'impression qu'on a de ce couple dans l'animé.
Oui, mais le couple, en fait, la relation du couple, elle est complètement inexistante.
On sait qu'ils ont grandi ensemble, que Kai a été très secondé.
Oui, ils ont partagé des choses, mais dans les OAV, on ne le voit pas.
Non, les 3 OAV sont vraiment axés sur le couple Kai et Lan.
Et Lan, ouais. Voilà. Bah, moi, mon couple préféré dans Kizuna, c'est Masa et Kai. Et justement, j'ai été déçue de voir que dans les OAV, il n'y avait rien du tout. C'est axé sur Kai et Lan.
Parce que justement, t'avais lu les mangas et après tu as vu les OAV.
J'ai vu les OAV en même temps. J'étais en plein dans la lecture de Kizuna et c'est d'ailleurs la lecture qui m'a donné envie de regarder les OAV.
Parce que dans le manga, le couple Kai et Masa, il est important.
Oui, oui, il est très important. D'ailleurs, le tome 10 et le tome 11, c'est principalement axé sur ce couple.
Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'ils aient pas consacré au moins un OAV rien que pour ce couple.
Bon, en même temps, ils ont pas trop de temps non plus, quoi. Bon, c'est vrai que c'est quand même une demi-heure, mais...
Sur 3,
ouais, ils auraient pu consacrer la moitié d'un ou...
Ouais, voilà, ils auraient pu... 1 sur 3, franchement, ils auraient pu faire sur ce couple-là.
Bon, déjà, l'anime ne respecte pas non plus tout à fait le manga, quoi.
Oui, non, pas du tout. Ouais. Par rapport déjà au kendo, c'est pas tout à fait la même histoire. On sait qu'il veut être. Que Kai idolâtre Lan.
Ouais, mais c'est tout en fait. Kai, il a toujours idolâtré Lan de toute façon. Hein. Que ce soit dans le manga ou dans l'anime, Kai a toujours été collé au basket de Lan, si je peux dire.
Donc, ce que j'ai bien aimé dans l'anime, c'était les musiques.
Les musiques étaient sympas, l'OST.
Moi j'ai trouvé que l'opening de Kizuna, surtout le 3, celui qu'on a passé tout à l'heure, était vraiment.
C'est entraînant.
Ouais, est une chanson qui donne envie de bouger.
Ouais, c'est une belle chanson.
Souvent il y a des OST que je déteste, que franchement, c'est un peu interminable, mais là non, je trouvais que j'ai bien aimé quoi.
Voilà. Ouais, la musique était très belle. Ça collait bien à l'ambiance.
Ouais, les graphismes. C'est vrai qu'on a remarqué quand même que les graphismes, même ont changé, je trouve.
Oui, de l'OAV 2 à l'OAV 3, il y a une grosse coupure. Ils ont fait une coupure. Et on voit vraiment que le graphisme a changé.
Il y a combien d'années d'écart entre.
Entre l'OAV 2 et l'OAV 3, un an ou deux ans, quelque chose comme ça.
Oui, je crois que c'est presque deux ans.
On remarque bien la qualité n'est pas du tout la même.
Ouais, pas du tout, l'image est plus nette, les personnages...
Et puis aussi, par exemple, la team qui s'occupait de la fansub en France, donc, qui est Yaoi Yuji, a d'abord sorti l'anime l'OAV 3 de Kizuna. Il a sorti, il y a quand même un bon moment.
Directement du DVD, voilà. Ouais.
Et directement du DVD, et seulement plus tard, on a eu les Kizuna 1 et 2.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est je sais pas, je voulais juste le dire comme ça pour ceux qui téléchargeraient. Bon, maintenant les 3 sont disponibles, mais pour ceux qui ont pu suivre l'évolution de l'animé, c'est vrai qu'on a eu le 3 d'abord, quoi.
Ouais,
voilà, donc c'est peut-être avant tout pour la qualité ou
peut-être sûrement, ouais.
Voilà, donc si vous n'avez pas vu, on vous le conseille, hein.
Ouais, même, ouais, c'est vrai que
on espère vous avoir donné envie,
surtout le manga. Lisez le manga, c'est une question de vie ou de mort.
Bon, d'accord, et toi, on a compris. Mais sinon, il y a aussi l'OAV, hein.
Oui, moi je suis d'accord. Moi, je défends l'OAV. Moi,
ouais, c'est
l'un des meilleurs que j'ai regardé pour le moment, quoi.
Voilà. Donc, on espère vous avoir donné envie. Puis,
de toute façon, si vous ne voulez pas lire, vous savez pas côté de quoi vous passez. C'est une pure merveille, c'est un chef-d'œuvre.
Puis après, on regardera un peu ce que vous en direz sur le forum, ça, pour voir un peu les impressions qu'il y a eu
à propos de la lecture. Voilà. Venir.
Ouais, il y a plein de topics sur ça, donc.
Voilà. Bon, je pense que maintenant on va passer à Ayun Kuga, qui a été concoctée par Lynx.
Mais oui.
Et qui va donc nous présenter cette mangaka.
On va la découvrir ensemble.
Hanabi, la première radio yaoi.
Donc là on va enchaîner avec Yon Koga, qui est une scénariste et dessinatrice. Son véritable prénom est Risa et son nom de famille est Yamada. Son pseudonyme, en fait, elle en a deux, qui est Kokonoe et Yon Koga.
Et Kokonoe, en fait, c'est quoi? C'est un surnom affectif ou c'est le nom qu'elle se donne?
Et en fait, elle utilise ce pseudo sur son site internet. Et il est autant connu que Yon Koga au Japon. Mais Yon Koga, oui, c'est vrai qu'elle l'utilise un petit peu plus pour les mangas, justement.
D'accord.
Elle est connue sous ce pseudonyme.
Ok.
Donc, c'est une femme, hein. Elle est née le 9 juillet 1965. Elle a donc 44 ans. Et c'est bizarre là, parce que c'est pas courant que les mangaka nous donnent l'année de naissance.
Ouais, c'est que généralement on a la date mais pas l'année, quoi.
Ouais.
Ouais, puis c'est rare de dessiner à ce âge-là.
Ouais.
Enfin, je trouve que.
Parce que là, Loveless est toujours pas terminée, donc.
Elle est encore en cours, hein, elle continue à travailler. Elle est née à Shinigawa, à Tokyo. Son signe astrologique est le cancer, son groupe sanguin B, qui donne toujours des informations.
Ouais, le groupe sanguin au Japon, c'est vraiment important. Ça détermine la personnalité.
Ah ouais.
Ouais, c'est que pour nous, ça représente rien du tout, quoi, à part pour les dons du sang, tout ça. Mais...
Ouais, mais chez nous, ça n'a pas d'importance.
On va pas demander une greffe d'un don du sang à Yon Kuga.
Ouais. Non, mais bon, bref. Elle est mariée depuis le 8 juillet 1992 à Masamoto Yamada, qui est son pseudonyme, c'est Tatsuneko. Ah, lui, c'est un mangaka et un acteur pas très connu. Il a fait, je crois, deux films, enfin, des personnages très importants et des mangas. Je crois qu'il en a fait peut-être deux, trois aussi. Pas très très connu, mais juste histoire de dire qu'il a fait quelque chose.
Ah, donc en fait, ouais, il a été ambivalent.
Ouais, après, c'est un homme à tout faire. Hein.
Par contre, c'est qu'on n'entend pas parler, quoi. Il doit peut-être. C'est bizarre parce qu'en général, au Japon, ils sont toujours dans l'idée que l'homme doit être le plus connu, le plus reconnu, tout ça.
Ouais.
Alors que là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment
c'est
sa femme
plus l'inverse.
Qui est,
ouais. Ouais. Ensuite, elle a une fille qui s'appelle Miyabi, qui est née en 1994. Donc voilà, elle n'est pas du tout connue.
Donc sa fille a 15 ans, si on fait plus.
Ouais, elle est jeune, c'est une ado.
Donc voilà, pour son identité. Ensuite, on va parler un petit peu de sa biographie. Alors, Yon Koga a commencé sa carrière en tant que mangaka en dessinant des doujinshi, comme Sansaya, qui est fan de... Enfin, dont elle est fan. Enfin, l'auteur de Sansaya est... qui s'appelle Masami Kurumada. Elle avait essayé de le rencontrer plusieurs fois d'ailleurs. Elle le harcelait quasiment.
Elle a réussi ?
Ouais, finalement il a accepté de la rencontrer sur son lieu de travail.
C'est un peu toi avec Haruka Minami.
Oui, mais elle ne répond pas à mes mails.
Sauf que Lind, elle n'a pas réussi à la rencontrer encore.
Non.
Pas encore.
Peut-être un jour. Hein.
Elle n'y arrivera jamais.
Oh, c'est une
je
mauvaise
langue. Je ne perds pas espoir. Bref, on s'éloigne du sujet. À part ça, elle a fait des doujinshi aussi sur Captain Tsubasa, Gundam Wing, Naruto. Bon, là, on a fait encore plein d'autres. Bah, c'est comme ça que la plupart des mangakas se font connaître, en dessinant des doujinshi. Mmh.
Sur les séries les plus connues, en fait.
Voilà. Parce que les gens aiment bien, donc... Ensuite, son premier projet, c'est Metal Heart, qui est sorti en novembre 1986, qui est paru dans le Comic Val.
Ça fait longtemps, ça, novembre 86, donc.
Mais ouais. Donc,
elle a vraiment commencé à...
Ouais, elle a commencé jeune, hein.
Ouais. Aussi, oui.
Mais apparemment, elle a beaucoup de succès.
Bah, elle avait 21 ans.
Ouais.
Donc, c'est vrai que ça fait...
Depuis 86, pardon, elle dessine.
Donc, elle a commencé à 21 ans, c'est vrai que c'est une carrière assez jeune, quoi. Ouais. Généralement, on se fait connaître plutôt dans la trentaine, quoi.
Ouais. Bah, elle avait du talent, elle s'est fait remarquer, hein.
Mais tant mieux.
Puis elle continue.
Bah oui, on lui souhaite bonne chance.
Yonkoga, ce n'est pas avant tout une mangaka de yaoi, mais elle a fait également beaucoup de shoujo. Elle est reconnue comme étant l'une des meilleures auteurs shoujo. Elle a fait aussi beaucoup de seinen, et donc du yaoi. Ses genres préférés, qu'elle aime bien... baser ses histoires là-dessus, c'est le fantastique, la science-fiction et le surnaturel. Elle aime bien mêler cet environnement, ces mangas. Ses histoires sont souvent tragiques, tristes, comme Ritsuka dans Loveless. On voit qu'il est battu par sa mère, il est triste, il n'a pas une vie très gaie, il a perdu son frère. Voilà, c'est toujours un petit peu ça, quoi. Ensuite, ses dessins, elle a commencé très tôt, c'est parce que ses dessins étaient très appréciés. Très fin, faisait pas des gros pâtés, bourrins.
Ah oui, quand on voit Loveless, les dessins sont très légers, c'est toujours doux, c'est une ambiance sombre, mais finalement, grâce
les
à la légèreté.
Les couleurs sont assez chaudes aussi.
Ouais, ouais. La légèreté des dessins, ça adoucit un peu le tout.
Ouais, même le scénario est très bien choisi, quoi.
En fait, je me suis trompé, c'est pas forcément que chaud. Il y a des pochettes où c'est couleur bleue et blanc, mais ça reste quelque chose qui n'est pas agressif. Ouais. Il n'y a pas des rouges vifs ou des choses comme ça, ou du noir. Quoi.
Non, elle est des couleurs très calmes.
C'est des couleurs pâles qui restent, qui passent bien, quoi.
Son œuvre phare, qui est Loveless, hein, on la connaît avant tout grâce à Loveless, a été publié dans un feuilleton dans Zero Sum en 2002, et il est toujours en cours. Donc voilà, nous attendons la suite, hein. Il y a des teams de fansub qui l'ont fait. Je ne me rappelle plus qui exactement.
Qui fait Loveless ?
Oui.
C'est la Brother Love.
Brother Love.
Mais la team est affirmée, mais les liens se trouvent assez facilement en cherchant vite fait sur Google ou même sur Yaoi Kuim.
Même en streaming, on les trouve.
Oui.
Voilà, donc comme c'est un animé qui fait qui a succès, donc on le trouve vraiment partout et très bien. Elle a également travaillé comme illustratrice pour des célèbres magazines littéraires, qui est Faust.
Que personne ne connaît.
Voilà, hein. C'est pas... On vous donne des informations, mais...
On ne connaît pas plus, hein.
Non plus. Il aurait fallu la contacter et vraiment avoir un interview, quoi. Mais bon, on n'a pas cette influence-là. Là, on va parler un peu de ses œuvres les plus connues. Alors, sa mangagraphie, elle est énorme, mais en France, on connaît pas tout, non. C'est pas possible. Donc, son plus connu, c'est Hertzian, qui est en cours actuellement dans la Scantrad, traduit par Rêve Fruité. On le rappelle, est la fusion de Passion Fruitée et de Tenchi no Yume. Là, ils en sont au volume 4 sur 5. Le manga est sorti au Japon en 1988 et il s'est terminé en 1994. Donc, ça va, c'était une série assez rapide, je trouve. Vous comprendrez pourquoi.
Quand même 6 ans pour 5 tomes, c'est quand même assez énorme.
Ouais, mais elle a fait pire. Je le dis un peu plus bas.
Ouais, mais c'est vrai qu'en temps normal, 6 ans pour 5 tomes, ça veut dire qu'elle en fait moins d'un par an.
Ouais.
Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est quand même assez lent.
C'est pas une mangaka connue par sa rapidité. Hein.
Elle prend son temps pour faire des... Je pense qu'elle veut satisfaire un maximum de public.
Puis peut-être qu'elle est aussi perfectionniste.
Et puis surtout, ses dessins nous ont jamais...
Elle fait peut-être plein de choses à la fois aussi, donc...
Ouais, et puis ça nous a jamais déçus, ces dessins, ils sont magnifiques. À chaque tome de Loveless, c'est un vrai plaisir pour les yeux.
Donc, Hertzian, c'est un genre shonen-ai et fantastique. Il y a aussi un peu de science-fiction, bon voilà, quoi, ça tourne toujours autour de ça. Il y a aussi Genji, mais bon...
Genji, d'ailleurs, oui. Il n'y a pas de N à la fin.
Oui, merci Pierrot.
Non, mais de rien, je suis là pour ça, bien sûr.
Donc Genji, mais... Personnellement, je ne le connais pas. J'ai fait des petites recherches, j'ai pas trouvé grand chose.
Genji, je pense que c'est un récit historique parce que Genji, c'est une personnalité très connue au Japon. Qui ne connaît pas Genji, c'est même qui. Enfin, bon, je sais pas.
Bon, bah nous deux.
Voilà, nous deux, voilà. Un Pierrot. Bon, voilà. On est debout là avec nous, hein, voilà. Chers auditeurs.
Mais ouais, j'ai pensé que c'était utile de le citer parce que elle a fait beaucoup de mangas qui ont été retranscrits en OAV. Ça, elle en a fait énormément. La plupart de ces mangas ont été faits en animé, donc je pensais que c'était... j'ai jugé utile de le dire. Après, son œuvre qui est assez connue, c'est La vie en rose. Mais là, c'était un shoujo fait en 2 tomes.
Il a été licencié en France ?
Oui, il a été licencié. Ne me demande pas par qui, j'ai déjà oublié.
Licencié ou même déjà paru ou pas ?
Oui, oui.
D'accord.
Déjà paru, ça fait quelques années maintenant qu'il est fini.
Ah, il est terminé alors.
Oui, oui. Deux tomes sont sortis et voilà.
Enfin, et ça parle de quoi, non ? Je sais pas.
Non, bon. Non, je sais pas, non.
Notre Charlene, je sais pas.
Non, non, écoute, tu me demandes déjà le yaoi, c'est déjà pas mal, non ? Après, ben, évidemment, on va terminer par Loveless, qui est une de ses œuvres les plus courantes, ouais. Et c'est, oui, d'ailleurs, c'est une de ses œuvres phares, c'est grâce à ça qu'on la connaît.
Oui.
Il a été licencié en France par Soleil Manga.
Qui est d'ailleurs, maintenant, ne fait plus yaoi, enfin... Est-ce qu'on considère comme un yaoi plutôt ?
C'est un shonen.
Voilà. Ouais, mais c'est vraiment le seul qu'ils ont fait quoi. Maintenant ils font que du shoujo.
Ouais, sur les mangas là dernièrement ils font plus trop de yaoi quoi.
Bah, ils font surtout du shoujo maintenant.
Ouais, ils sont très axés sur le shoujo. Et donc la série elle a été commencée en 2002 au Japon. Alors comme tu disais là avant que 6 ans pour 5 tomes, c'est énorme. Mais alors là en fait son premier manga, Loveless, est sorti en 2002. En juillet, le deuxième est sorti en décembre 2002, donc là, on pourrait penser que ça va. Mais par contre, après, c'est un par an, quoi. C'est le troisième en 2003, le quatrième en 2004, vraiment un an pile poil d'intervalle. Le 5 en 2005, le 6 en 2005 aussi, pardon, mais avec 8 mois d'écart. Et le 7, un an plus tard, et le 8 qui est sorti le 26 février 2008. Et donc... là, on a pensé aussi que c'était utile de le dire, que le 9, le volume 9, est enfin sorti le 25 novembre 2009. On va pas tarder dans 6 mois à l'avoir en France.
Et il me semble que sur la couverture, ce n'est ni Ritsuka ni Sobi, c'est un autre personnage.
Oui, c'est en fait c'est une des zéros qui apparaît dans le volume 4, qui est Koya.
Ah oui, elle me rappelle vraiment.
Oui, c'était une des filles qui faisait partie d'un couple Yuri. Il y avait un petit peu de Yuri dans cette histoire. Et voilà, je n'en sais pas plus pourquoi c'est elle. Parce que c'est bizarre jusqu'à présent. C'est vrai que sur les couvertures, on a beaucoup vu Ritsuka et Sobi. Et donc là, voilà, c'est une petite particularité du volume 9.
Mais elle a pas fait des artbooks aussi ?
Si, elle a fait beaucoup d'artbooks. Elle en a fait, il y en a 4 pour l'instant. Alors il y a le Love Song qui est en fait sur la série Hertzienne, avec il y a des chansons, il y a plein de bonus. Donc enfin après c'est si la série vous a plu tout, ça peut toujours être agréable de regarder ces dessins. Après il y a son artbook qui regroupe 50% de Loveless et tout le reste c'est toutes ses œuvres mélangées, que ça soit Hertzienne qui est un shonenai. Et il y a aussi d'autres des illustrations de ces shoujo qui s'appellent Your Eyes Only. Alors, désolé, je m'excuse d'avance pour mon anglais. Alors, ensuite, elle a fait un spécial.
Pourquoi spécial ?
Oui, alors parce qu'en fait, il y a 4 S.
Voilà. Ah, donc c'est pour ça que tu as fait le serpent.
Oui, voilà. J'ai oui. Fantasy.
Petite vipère.
Ouais. Donc, c'est aussi un artbook sur Hertzienne et Genji. Bon, il y a d'autres aussi de séries qui sont illustrées dedans. Et son quatrième, qui n'est pas vraiment un artbook, mais qui est en fait Loveless Mind Map, qui est le guide officiel de l'animé. On voit les seiyuu, il y a des croquis, des interviews de Yonkoga.
Juste pour info, les seiyuu, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est les doubleurs de voix dans les OAV, quoi. C'est ceux qui font le doublage, la voix japonaise.
Voilà. Ils sont très importants dans le milieu, ils sont très appréciés aussi et très célèbres.
Oui.
Pour la plupart.
Donc là, on voit des photos avec Yonkoga, avec certains des seiyuu. Pour ceux qui ne le savent pas, celle qui fait la voix de Ritsuka, c'est une femme. Ça, ouais. Peut-être, on s'en doute pas. Bon, c'est un petit garçon de 12 ans.
On a fait que c'était peut-être mieux d'avoir, parce que le garçon n'a pas encore mué, donc
ouais.
Un homme ne pourrait pas faire une bonne muée.
Ils auraient pu choisir peut-être un petit garçon pour le faire, mais non, ils ont jugé...
Mais dans la plupart des animes, que ce soit yaoi ou pas, hein, c'est les petits héros sont souvent doublés par des femmes.
En même temps, je suis pas sûr qu'il ait le droit de faire travailler un enfant.
Non,
nous,
mais
en France,
on
utilise pour des films des enfants, mais je suis pas sûr que là-bas, ils vont pour un manga, un simple manga, ils vont peut-être pas... Surtout un yaoi où les histoires justement sont un peu... Je vois imagine un enfant de 12 ans qui voit vraiment, qui doit faire les doublages où il se fait embrasser et tout.
Ouais.
C'est un peu tendancieux, quoi.
Ouais, mais voilà, au Japon, comme je disais, les seiyuu sont très appréciés et très demandés. Et très souvent, les seiyuu peuvent faire beaucoup de voix, des
mimiques. Non, mais je disais pas ça, mais moi je parlais de l'enfant, vraiment utiliser
ouais,
un enfant pour
les
seiyuu.
C'est pour ça que les enfants, c'est pas la peine d'utiliser un
voilà,
enfant.
Voilà, parce qu'en plus, ils seraient choqués, quoi. Je veux dire, par exemple, si on, pour Pico no Chico, là, ou je sais pas quoi, ou Boku no Pico. C'est des enfants dedans, et je veux dire, les enfants qui verraient ça en même temps qu'ils devraient faire les doublages avec les gémissements et tout, ça pourrait les choquer, quoi.
Donc voilà, bon, ben, après, on n'a pas trop d'informations sur cet auteur, mais...
Non, c'est déjà beaucoup, là.
Voilà, maintenant vous connaissez un petit peu plus Yon Koga, qui a fait Loveless. Voilà, maintenant vous pourrez vous vanter de la connaître un petit peu plus. Là, on va passer à...
Bah là maintenant on va écouter une musique qui est la musique de l'opening de Antique Bakery qui est Life Goes On Side K chantée par Chemistry.
I've just got to believe 闇が迫り 行き場失ったとしても 今は君がそばにいる 迷わずに踏み出すんだ 流した涙はきっと 光る結晶へと変わる 優しく包んで君に仕掛けられることを何があるんだろう苦手なことならたくさんあるというのに I am to be with you 君の言葉と思い出して頷く星がつかめそうな夜終わらぬ愛を誓おう
Bon, et bien maintenant, on va vous parler de l'animé qu'il est papa. Donc, le créateur de l'animé, c'est Lio Takagi. Le dessinateur des personnages est Shuhei Tanaka. Donc, dans l'animé, les trois personnages principaux, donc on vous cite d'abord les trois, on parlera de tous les personnages plus tard. Donc, les trois personnages principaux sont Chisato Takatsukasa, qui est le père. Il y a aussi Sakaki Chunsuke, qui est le petit copain de Chisato et le meilleur ami de Liju. Et en parlant de Liju, justement, c'est le fils de Chisato. Et voilà, c'est son fils, quoi, tout simplement. Et c'est celui aussi qui a, il a quand même une part assez importante dans l'animé. Bon, on va voir après que tout tourne aussi un peu de lui, autour de lui. Donc, pour parler des OAV, ils sont sortis au Japon pour l'OAV 1 le 25 janvier 2008. Donc, c'est quand même assez récent.
Ouais.
Et l'OAV 2 est sorti le 28 novembre 2008, soit à peu près 8 à 9 mois, quoi. Même pas, non, plus même, 11 mois.
11 mois d'intervalle.
11 mois d'intervalle, bon, qui reste encore assez raisonnable. Pour des... Ça va.
Mais ça va, hein.
Parce que dans la même année, on a quand même eu deux OAV qui durent 30 minutes à peu près. Ouais. Donc c'est assez, je trouve ça assez bien. Et surtout, qu'ils ont été faits en France que cette année. Donc vraiment, c'est quelque chose qui...
Ouais, un an plus tard en fait.
Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a été assez d'actualité, quoi. Assez bien suivi. Donc d'ailleurs, en parlant de fansub, donc il a été fansubé par Jiyu no Yaoi, avec une assez bonne qualité, mais malheureusement, ben, par-dessus la version anglaise, donc ça veut dire que des fois, on peut voir des sous-titres anglais dépassés, ou... mais bon, c'est vraiment une assez bonne qualité, donc c'est assez agréable à regarder. Et donc, ils ont sorti les deux OAV en même temps. Ils ont sorti ces deux OAV le 29 avril 2009.
Ah, ça fait
pas... Non, ça fait pas longtemps. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant de team de fansub, il n'y a pas une autre team qui a fait
tout à fait. Il y a aussi Yaoi Uji, qui est un peu plus connu.
Oui.
Parce que Jiyu no Yaoi n'est pas mort, mais ben, on pense pas. Mais disons que pour l'instant, ils ne font plus de sortie. Mais la team existe toujours. Alors que Yaoi Uji, pour l'instant, donc, les a refaits. Et un peu plus tard, donc ils ont sorti l'OAV 1 le 21 août 2009. Donc pareil, ils avaient fait aussi sur la version anglaise au départ. Donc eux par contre avaient réussi à flouter les sous-titres.
Tout le bas, ouais.
Voilà, tout le bas. Donc en fait, toute la partie du bas était floutée et avaient rajouté les sous-titres par-dessus. Mais c'était une qualité, c'est vrai, qui était assez médiocre quand même. Parce que c'était... Ah, c'est...
Ils l'avaient pris en streaming, non?
Je ne sais pas, non. Mais disons qu'ils avaient arrivé...
Non, je crois que c'était pas une roue de mauvaise qualité.
Non, c'est sur les versions anglaises qu'ils avaient.
Oui, sur les versions anglaises.
Ouais. Ah, oui. Donc, ouais. Bon, enfin, après, ils ont sorti l'OAV 2 le 7 octobre 2009. Cette fois, à partir de la RAW, donc de la version originale en DVD. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une qualité DVD, quoi. Donc, vraiment bonne. Et ils ont refait l'OAV 1 plus tard avec la qualité DVD aussi. Non, donc, vrai. Le 7 octobre 2009, en même temps, bah, elle n'était pas sortie le même jour, mais ils ont, je crois, peut-être si. D'ailleurs, ça devait être sorti le même jour, il me semble. L'OAV 1, je crois qu'ils ont ressorti le même jour la version 2 de...
Ah oui, de
qui n'a pas parlé. Pour, ben, comme ça, maintenant, on a... Donc maintenant, sur Yaoi Uji, vous pouvez trouver les deux OAV en bonne qualité. Qualité DVD.
Ouais, c'est tout récent, en plus. Hein. Octobre 2009,
ouais, vraiment, octobre,
ouais, c'est tout récent.
Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas comme ça, mais l'OAV 2, ouais, il a 2 mois, 3 mois, quoi. À peine. Ouais. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de l'histoire. Donc, en fait, Chisato, c'est un papa poule, mais qui est aussi... très sexy, hein, faut le dire, hein. Franchement, voilà, il fait craquer tout le monde, aussi bien les amis de Liju que des gens, quoi, dire que des femmes ou tout ça, quoi. Et il est assez attachant en plus parce que il a un peu plus de 30 ans, il me semble, ou 30 ans même.
Il a 30 ans.
Voilà, oui, il a 30 ans.
Ouais, il fait pas du tout son
il
âge.
Il fait pas du tout son âge, on peut lui en donner plutôt 25, quoi.
Et encore.
Hein. Ouais, même pas. Hein.
Et donc le Chisato, en fait, il pense que tous les garçons qui s'approchent de son fils, ben, veulent le violer. Tout simplement. Donc, il va tout. En fait, il fait tout pour les faire sortir de chez lui. Et,
il surprotège son fils, en fait.
Voilà, c'est ça, oui. Et tout à fait. Hein. Donc, il va trouver des astuces comme mettre des laxatifs dans le gâteau, choses comme ça, histoire de vraiment les. Bah, d'en faire des ennemis, finalement, plus des amis.
Il a tendance à beaucoup imaginer ces scènes de viol dont il a
oui,
peur.
Voilà. Tout le temps, il voit. Et tout le temps, il imagine son fils se faire violer par, bah, par ses amis.
Ouais.
Donc, il imagine toujours son fils dans une position de hooker, en plus. Et.
Il appelle, hein.
Comment ?
Il appelle son père. Hein. Voilà.
D'accord. Merci, Line, pour cette intervention très nécessaire.
Il appelle. Mais il appelle quoi ?
Bah, à chaque fois, les scènes dont on
ah voit, oui.
Il appelle son père.
Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, oui, ils sont. Oui, le. Comment ça veut dire ? En fait, c'est que quand Chisato imagine des scènes avec son fils dedans.
Ah, Liju l'appelle à la
Liju crie Chisato comme ça. Vraiment. Pour l'appeler au secours, ouais. Hein.
On voit que c'est lui le sauveur, quoi. Il voilà, n'y a oui. que lui qui pourrait sauver son fils.
De toute façon, il idolâtre son fils. Pour lui, son fils, c'est sa petite lumière, c'est vraiment...
Mais c'est normal, hein.
Mais par contre, ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est qu'il y a un ami qui, depuis 4 ans, résiste à toutes ses supercheries. Donc, ça fait 4 ans qu'il est ami avec... D'ailleurs, c'est le meilleur ami de Ryuji, c'est Shunsuke. Et ça fait 4 ans qu'il subit un petit peu ce que fait les tortures de Shisato. Et en fait, on va s'apercevoir que Shunsuke est totalement amoureux de Chisato.
Ah oui,
ça explique tout.
Après, on peut aussi parler que Chisato, en fait, il est complètement fan, parce que il est écrivain, il est complètement fan, et quand on dit fan, c'est il est prêt à demander en mariage l'auteur d'un roman, mais vraiment, il fait tout pour avoir des infos sur cette personne. Et c'est un peu l'objet clé aussi du premier OAV.
C'est un peu cet auteur justement qui l'a inspiré à devenir romancier, non?
Voilà, c'est vraiment ce qui lui a déclenché sa passion et qui l'inspire dans ses histoires et tout.
Et il s'appelle comment? Sakishinka, c'est ça?
Sakishinka.
Oui. Ah. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Et on va voir un petit peu comment se passent les relations entre le père, le fils et le meilleur ami. Donc tout d'abord. Il faut dire aussi qu'après, avant de parler des personnages noirs et des relations qu'ils ont entre eux, je vais d'abord vous dire qu'il y a un manga, forcément, parce que s'il y a l'anime, il y a forcément le manga qui va avec, qui est une série finie, en 4 tomes, et qui va bientôt être disponible sur le site de Seiyoku et de Rêve Fruité, parce que c'est une coproduction entre les deux teams.
Ouais, donc on va sortir le...
Le bonus, la sortie du bonus du volume 3 qui explique la rencontre entre Chisato et Shunsuke. Qui va sortir normalement début janvier.
Ah, ça doit être intéressant parce qu'on n'a pas ça dans les OAV.
Ouais.
Non, ouais, donc c'est pas mal.
Ouais, avec Ayatori, on a pensé que c'était important de le mettre dès le début. Donc
voilà, attendez-vous en début janvier sur le site de Seiyoku et de Rêve Fruité à le voir sortir.
Voilà.
Et puis après, ça sera au fur et à mesure.
Ouais, on va le faire petit à petit. Hein.
Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus des personnages et des relations qu'ils ont entre eux. Donc Takatsukasa Chisato, c'est donc le père de Liju. Il a 30 ans, il est romancier. Il est employé par Funaba Shin, qui est le fils... Non, désolé, j'ai bafouillé. Chisato est le fils de Chihiro. Il a aussi deux frères, qui s'appellent Chitose et Chidori. Comme on l'a dit tout à l'heure, Chisato, il est totalement amoureux de Sakishunka. Et vraiment, même à un moment, il a payé Funaba, son éditeur, pour essayer d'avoir des infos sur lui, mais vraiment, vraiment tout, quoi. Vraiment,
la totale.
Voilà. Encore pire que l'anime avec Haruka Minami.
C'est discutable, hein.
Bon, je pense que si, quand même. Mais par contre, ce qu'il croit, c'est que c'est une femme. Donc on va voir par la suite que c'est pas du tout une femme. Mais il s'imagine que c'est une femme. Il fait des rêves où il la voit en train de se retourner sur la plage. Et
les cheveux longs.
Voilà, les cheveux longs. En train de lui dire qu'il l'aime. Enfin, voilà, vraiment une fantasme, quoi. Donc après, Chisato, il est ok.
Et quels sont les signes qui montrent que en fait? Parce qu'on ne sait pas, en fait.
Si, justement. Les deux OAV la montrent très bien. C'est vrai que dans ces deux OAV, on a vraiment tous les signes du ok typiques. Hein. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, Chisato, quand il tombe, il tombe souvent. Quand il tombe, il atterrit avec les fesses en l'air. On le voit souvent avec des petites étoiles autour de lui, des petites fleurs, des petits signes des yeux en étoiles.
Des paillettes.
Il a la voix hystérique, il tourne partout, il se roule par terre. Bon, après, par exemple, on va vous révéler un petit peu. Hein. Quand il va être en couple avec Shunsuke, il se laisse prendre facilement. Il ne dit rien, il se laisse attraper.
Ouais, il se laisse guider.
Voilà. Il est souvent dénudé, il a souvent les épaules à l'air, la chemise ouverte, des choses comme ça.
C'est le hook typique.
Voilà, il a aussi, par exemple, il est blond, donc ça paraît pas comme ça, mais si vous faites bien attention au manga, animé, tout ça, les hookés sont souvent blonds et les
séries
souvent bruns. Voilà. Ouais. Donc ça permet.
La couleur des cheveux définit beaucoup si les hookés ou séries.
Ouais. Bah, par exemple, la couleur noire des cheveux, c'est le beau brun ténébreux.
La
dureté,
voilà,
la force,
tout ce qui est noir, c'est sombre, c'est fort, c'est
voilà.
Alors que blond, c'est répertorié plus à une femme avec les cheveux blonds, enfin voilà, c'est toujours un peu de la part de femme et tout qui revient là-dedans, quoi. Donc après, donc justement, on parlait tout à l'heure de la relation avec Shunsuke. Donc Shunsuke Sakaki est un étudiant de 16 ans. il est aussi romancier, justement, sous le nom de sa Kishunka. Donc en fait, Shisato est amoureux, secrètement, de Shunsuke. Mais en s'imaginant que c'est une fille. Donc, il va apprendre un peu plus tard que Shunsuke est sa Kishunka.
On ne dit pas comment.
On dit juste que forcément ils vont se mettre ensemble parce que il accepte un peu le fait que ce soit un homme, mais au départ on pense plus qu'il l'aime quand même comme son auteur. C'est plus
D'ailleurs il a une rivalité quoi.
Voilà, c'est plus quand même la passion de pour son auteur qui
a vraiment cette impression que Shisato est plus amoureux de l'auteur que de lui et il lui reproche souvent.
Oui, c'est vrai. À part dire que c'est aussi le fils de Kanzaki qui n'a pas le même nom de famille que lui.
Qui était au lycée.
Il a dû prendre le nom de sa mère.
Voilà, il a dû prendre le nom de sa mère. Non. Shunsuke est le sémé, comme on disait tout à l'heure.
Donc, qu'est-ce qui prouve que c'est le sémé, justement?
Voilà, il est plus grand que Chisato. Il a une carrure aussi plus imposante. C'est-à-dire que voilà, il a plus de muscles. Il a des cuisses plus grandes. Il parle calmement tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas la voix hystérique, il reste sobre dans ses paroles. Il va pas commencer à crier, à faire des petits aigus et tout, quoi, vraiment tout le temps. C'est celui qui va prendre les initiatives, qui va l'emmener au lit, qui va le serrer dans ses bras, c'est pas Shisato qui va serrer Shunsuke dans ses bras, il va se laisser serrer par contre. Donc c'est vraiment dessiné comme ça. Par exemple aussi, après l'acte sexuel, il va être habillé, la ceinture bien fermée, le pantalon taille basse.
L'homme qui commande tout.
Voilà, c'est vraiment l'homme bien clean, bien, voilà, tout au
on
carré.
On voit que c'est lui qui a le pouvoir.
Voilà, c'est vraiment celui qui impose sa
virilité.
Sa virilité. Merci. C'est bon. Et donc maintenant, on va parler du fils de Chisato, qui est Liju Takatsukasa. Donc, il est dans la même classe que Shunsuke. Donc, il a 16 ans, même s'il ne paraît pas. Il paraît un plus au collège.
12-13 ans, oui.
Ouais, voilà. Ouais. Et c'est aussi le meilleur ami de Shunsuke. Donc en fait, c'est assez spécial de voir un père être en couple avec un ami de son fils, quoi. C'est d'ailleurs un peu au départ ce qui les repousse.
Qui repousse Shisato. Hein.
Ouais. Mais bon, finalement, ils aiment tellement qu'ils vont quand même se mettre ensemble. Donc, Liju, comme on le disait au tout début, il est surprotégé par son fils. Son père, désolé. Fils à 16 ans, ce serait pas possible. Quoi que ce soit. Mais bon. Un moment dans l'animé, on aperçoit qu'il avoue son. Oh là là, désolé. Qu'il avoue son homosexualité.
Qu'est-ce que t'as vu?
Je sais pas, mais alors les mots ils sont pas tous dans le bon ordre. Donc, un moment dans l'animé, on voit qu'il avoue son homosexualité à son père. Donc, voilà.
Il accepte?
Son père, non. Mais en fait, son père n'accepte pas vraiment.
Mais en fait,
il accepte pas tant l'homosexualité, il accepte. On va voir qu'il accepte juste pas son copain. Disons que je pense pas que ce soit l'homosexualité qui le dérange.
Ah, parce qu'en fait, il a avoué son homosexualité parce qu'il a vu que son père était en couple avec son meilleur ami.
Voilà, oui. Mais c'est quand il les a découverts ensemble qu'il a fait « Non, mais je suis très heureux pour toi, papa, c'est très bien, mais moi aussi, il faut que je te dise, je suis amoureux d'un homme. » Voilà, donc...
Ça, on l'apprend à la fin de l'OAV1.
Voilà, ouais. À la fin de l'OAV1. Ouais. Donc, bon, c'est vrai que le père ne... Bah, je sais pas. Je pense, en fait, il aurait bien pas accepté qu'il soit amoureux de quelqu'un tout court. Vraiment, le père le veut que pour lui.
Ouais, il le monopolise.
Il est tellement surprotecteur.
Ça fait limite incestueux, je veux dire. Limite, il l'aime comme presque plus qu'un fils. Vraiment, ça fait. Moi, je sais pas. Je trouve que c'est une relation assez spéciale de la part de son père. Son fils, non, mais de la part de son père, je trouve que ça marche pas trop. Quoi. Donc, enfin voilà. Et donc, Liju est amoureux de Kakeru.
Qui apparaît dans le
OAV2. Kakeru n'apparaît que dans le OAV2. Donc justement, Kakeru Niju est le sémé, donc Liju est donc le hooké, donc ça veut dire que le père et le fils sont tous les deux hookés dans leur couple.
Liju, ça se voit quand même qu'il est sémé, quoi.
Voilà, ouais. Il est plus petit, plus jeune, enfin... Bon,
après, il a les mêmes caractéristiques dont tu avais parlé pour Chisato,
c'est
les
pareil.
Cheveux clairs, il se laisse guider...
Voilà, donc Kakeru... c'est celui en fait qui joue l'acteur de la série phare que Chisato suit et qui est totalement amoureux, où il se roule par terre quand il voit les épisodes et tout. Et Kakeru donc est le plus grand, il est le plus fort, avec
il est ténébreux. Voilà.
Bah, c'est vraiment encore les signes du Uke Seme, toujours respecté quoi. Donc dans cette série phare, il joue le il joue le rôle
qui a fait Pierrot
de Mizuki.
Non mais ne dis pas s'il va boire quand il va aux toilettes, hein.
attention hein.
Bref.
Donc après il y a Kanzaki qui est le père de Shunsuke. Donc on ne connaît pas son nom de famille, tout ce qu'on sait c'est qu'il ne porte pas le même nom de famille que Shunsuke. Donc en fait Kanzaki n'apparaît que dans le premier OAV. Et on apprend que Kanzaki étant au plus jeune, au collège.
Au lycée.
Au lycée. Oui, mais ils appellent ça le collège, quoi, non ? Les deux. C'est pour eux, c'est le collège, c'est les mêmes.
Collège pour eux, c'est l'université.
Ouais. Bon, bah.
Donc lycée.
Au lycée. Vous avez. Ouais, je passe un peu pour un nul, hein.
Mais non.
Non, je serai lycée.
Donc, Kanzaki, on apprend qu'au lycée, il a tenté de violer Chisato. Parce qu'en fait, il l'aimait, mais bah, il savait pas montrer son amour, donc bah, rien de mieux que le viol, tiens.
Un petit peu brutal, ouais.
Oui, bah oui. Hein, oui, on va tenter sa chance.
Voilà,
hein.
C'est une belle déclaration. Hein.
Et tous les moyens sont bons.
Ouais, bah, sauf que ça n'a pas très bien marché. Hein.
Ouais.
Mais bon, par contre, dans le premier OAV, il s'excuse. Il dit qu'il regrette ce qu'il a fait.
Indirectement.
Oui, indirectement, parce qu'en fait, il croit parler que à son fils Shunsuke à travers la porte. Sauf qu'il y a aussi, en plus, Chisato derrière.
Ouais, mais
donc Chisato entend ses excuses. Mais
c'est indirect, voilà. Mais en plus c'est à travers une porte, hein, donc.
Ouais, c'est vrai que peut-être que la relation qu'ils ont entre les pères et le fils.
Je sais pas.
On n'en connaît pas trop sur la relation qu'ils ont ensemble.
Non. On voit apparaître que deux fois. Hein.
À un moment, si y a Shunsuke qui s'énerve et qui dit qu'il va commettre le crime parfait pour tuer son père, vraiment à tel point qu'il est amoureux de Chisato, il va tout faire.
Il doit pas être prof. Non.
Voilà, donc
depuis le divorce, sûrement.
Il doit pas trop tenir à lui, quoi. Donc après on va parler du père de Chisato qui est Chihiro Takatsukasa. Donc lui aussi il n'apparaît que dans le deuxième OAV. Donc il a une auberge qui est aussi avec ses deux frères. Bon, on va parler des deux frères plus tard. Chihiro ressemble énormément, mais quand je dis normalement c'est les deux mêmes quoi, à Chisato.
C'est plutôt Chisato qui ressemble à son père.
Oui, mais les deux se ressemblent quoi.
Oui.
Mais comme c'est le fils,
il ressemble plus à son père plutôt que le père.
Mais si on dit que les deux se ressemblent, il n'y a pas d'ordre. Ça veut dire que les deux se ressemblent en même temps. Ouais, mais bon, si vous voulez, Chisato ressemble à son père. Ça, c'est bon, vous êtes contente ?
Oui.
Je sais plus le dire. Oui, bah à côté de vous là, vous m'écoutez. Merci.
Mais dis donc, t'en fais pas grand chose, hein.
Donc il ressemble énormément à son père Chihiro. Mais son père a juste un petit grain de beauté sous l'œil en plus. Mais bon, voilà, il a quand même une chance, rien, un peu de fond de teint dessus, et il est plus beau.
Je crois pas qu'il se mette du fond de teint, mais bon.
Ah, mais je sais pas, nous en France, il y en a bien qui mettent qu'il ferait.
Oui.
Hein ?
Non. Bon.
Tu parles en connaissance de cause, on dirait ?
Ouais. Non. Comment ?
Bref.
Bon, c'est bon, vous calmez là. Hein ?
Mais c'est toi qui boit en cachette, hein ?
On commence à peine, attends.
Donc, Chihiro, lorsqu'il apprend que son fils Chisato est en couple avec Shunsuke, en fait, il n'accepte pas du tout cette relation, il va tout faire pour les séparer. Et donc, il va, par exemple, mettre des cafards dans la nourriture de Shunsuke, mettre des draps pleins de sang, tout ça. Enfin, vraiment, il est vache, quoi. Et à un moment, quand il comprend que Chisato est vraiment amoureux, il va dire, bon ben, comme on se ressemble, s'il n'est pas capable de faire la différence entre toi et moi, ben, c'est qu'il ne te mérite pas. Donc il va se déguiser en son fils et il va aller voir Shunsuke, désolé, pour voir s'il arrive à faire la différence. Et Shunsuke, dès le début, il arrive très bien à s'en rendre compte, quoi. Donc finalement, et même on pourrait penser qu'il tombe un petit peu amoureux de Shunsuke, parce que il rougit, il a des petites sueurs.
Ouais, il a les mêmes mimiques que son fils.
Voilà.
En fait.
Donc même Shunsuke pense qu'il pourrait être en train de tomber amoureux. Donc bon. Bien sûr, il passe rien de plus, hein, mais bon, ça pourrait être intéressant quand même.
Ouais, ouais. Ça pourrait faire une bonne suite.
Un petit truc à trois. Hein.
Oh, moi, je parle pas d'orgie, mais bon.
Ah, oh, pourquoi pas.
Une mère. Hein.
Donc après, comme je disais tout à l'heure, le père tient une auberge avec ses deux fils. Donc, avec deux de ses fils, parce que Chisato ne tient pas l'auberge. Donc il y a Chidori et Chitose. Dans l'auberge, Chidori est cuisinier. Et puis, Chitose, on sait pas trop ce qu'il fait.
Il
et
là,
puis
quoi.
En fait, ils sont là toujours à servir. Voilà. Ouais, mais ils sont là toujours à servir leur père. Ils aident à l'auberge. Ils vont l'aider, par exemple, là aussi pour la relation qu'il y a entre Chisato et Shunsuke. Donc, vraiment ils sont un peu j'ai à être méchant mais un peu des larbins quoi. Je veux dire
Oui, ils jouent pas des rôles très importants.
Non, voilà, on les voit comme... mais sans plus quoi. Je veux dire on a pas trop de choses à dire sur eux quoi.
Pour faire un peu de décoration.
Ouais, un peu, je pense. Bon, d'ailleurs, c'est plus clair que ça parce que sinon il y a pas beaucoup de personnages quoi. C'est vrai que si on enlève les deux là déjà après il en reste moins quoi. Mm. Enfin. Après il y a Funabashin qui est l'éditeur de Shisato qui a une relation assez forte, je dirais. Bah, je pense que ça nous laisse aussi réfléchir, c'est pas mal parce que je sais pas, on pourrait peut-être penser qu'il est amoureux de Chisato parce que il accepte toutes les faveurs de Chisato. Par exemple, si Chisato n'a pas fini son livre, et ben il va lui laisser du temps. S'il lui demande une info sur l'auteur dont il est fan, et ben il va tout faire pour la chercher. Dès qu'il le remercie, Chisato, ben il se met à rougir, Funaba, tout ça. Donc vraiment, il pourrait être un petit peu amoureux de Chisato.
Il pourrait y avoir quelque chose.
Ouais. Ouais, il y a toujours cette ambiguïté de.
Ouais, avec un peu toutes les personnes, un peu tous les personnages, ouais.
Ouais.
Mais bon, en même temps, comme je l'ai dit au début, Chisato est aussi très sexy, alors bon, il fait craquer tout le monde. Hein.
Ouais.
Donc pourquoi pas Funaba, hein. C'est vrai que Funaba, il appelle Chisato par son prénom, et pas non plus son nom de famille, alors que des collègues de travail, même pas collègues de travail, parce que là, c'est pas vraiment collègue, mais ils se voient pas non plus trop souvent, ils devraient s'appeler par leur nom de famille, mais là non, c'est direct le prénom.
C'est donc, sûrement des amis d'enfance ou des amis de longue date.
Ouais, sûrement.
Ouais, à part le lien du travail, il y a peut-être le lien de l'amitié qui les réunit.
Bon, voilà.
Voilà, donc, ça vous laisse à la réflexion.
Bon, bah, maintenant, on va passer au Flash Info.
Oui.
Qui récapitule un petit peu toutes les
sorties. Les sorties, Sadskan Trad, Fanson, tout ça.
Les sorties en France, les mangas.
Ouais.
Du mois qui va venir.
Flash Info.
Et tout de suite, on attaque avec les teams de Scantrad. On va parler de Seiyuku avec l'artbook de Haruka Minami, Panis Angelix, qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec Oh My Mate, chapitre 3, en coprod avec Rêve Fruité. Dans les nouveaux projets, on a plein d'artbooks, notamment celui de Kazuma Kodaka, de Kohitsuji Hokaku Keikaku, donc de Haruka Minami, et celui de Kaguen Heaven. Ensuite, pour les sorties, il y aura le 1er janvier 2010, Koito Soto Play de To, chapitre 3B, qui terminera ainsi cette série. Ensuite, on a une coproduction à 3, Seiyuku, Rêve Fruité et Aininate, qui sortira un one-shot de Nao Nobora, Hitomi no Oli.
Ensuite, du côté de Rêve Fruité, qui je le rappelle est une fusion de la team Tenshi no Yume et Passion Fruité, ils ont sorti des doujinshi, donc Harry Potter, Prince of Tennis, Gundam Wing, Genjuro Mantica, qui est dispo en avant-première sur le forum. Ensuite, le chapitre 6 de Akinule Goyomifu Yukiwa, c'est une coproduction de 6 teams, donc Make It Truth, Rêve Fruité, Yaoi Boys, Tomo, Yaoi Bronze Katsuai et Le Coin des Fans. Et le chapitre 1 du volume 2, qui est le dernier de Pathos. Le 1er janvier 2010 sortira Earthian, le chapitre 22, qui fait une centaine de pages et qui clôt le volume 4. Vous aurez droit à un Junjo Romantica Day total, donc on vous dit pas ce qu'il y aura. Mitsuyaku de Maruya Kae, c'est un peu fantastique. Hein. Et l'extra Lover's Position de Masara Minase. Du côté de Yaoi Juice Mag, hein, le numéro 2, qui sortira en février, on aura droit à Love Pistols, Yamane Ayano, les différents genres du Yaoi, donc le Shota, le Barazoku, etc. Et une interview de Vava Nemo et de son manga Human Puppets.
Du côté des animés, la team Yaoi Uji a sorti l'OAV 1 de Seito Kaicho ni Chukoku, qui est plus connu sous le nom de A-Class President, et aussi l'OAV 3 de Boku no Pico, qui porte le nom de Pico Kokoto Chico. Donc, pour les diverses sorties manga, on a la réédition de New York New York de Mari Moragawa, dont le premier tome est prévu pour juin 2010 chez Panini Comics. La première version en France a été sortie en 1998. Donc après, un Stupid Story 3 devrait sortir en mars, mais on n'en est pas trop sûr, on n'a aucune information dessus. Le Gakuen Even 4 est sorti au Japon le 10 juillet 2010, donc on l'attend avec impatience en France. Le Loveless 9 est sorti au Japon le 25 novembre 2009. Le Secret Love de Tai Shizao par Taifu est un one-shot et il devrait sortir en avril 2010. Et Payback par l'édition H, qui est un one-shot, devrait sortir en mars 2010. Pour ce qui est des plannings des maisons d'édition,
en licence française,
oui. Il y a le 6 janvier Not Really Sensei par Tonkam. Le 14 janvier, il y a No Money, le tome 4 sur 8, qui est encore en cours au Japon par Asuka. Et le même jour, il y a Silent Love, le tome 1. qui est d'ailleurs en pré-publication dans le magazine B-Boy, et qui sera donc dans les éditions Azuka. Donc le 27 janvier, il y aura aussi Tendre Voyou, tome 2, chez Taifu, qui sortiront le même jour Fragment d'amour, tome 2, ainsi que Love Mode, tome 4. Et ce même jour, en même temps encore, donc là on a 4 sorties le même jour, chez Taifu, le Love Pistols, tome 3 sur 5, qui est toujours en cours au Japon. Le 28 janvier, donc le lendemain, il y a le magazine B-Boy de prépublication, tome 4, qui sortira chez les éditions Asuka. Et on va annoncer aussi que...
Quelque chose dont notre Lent n'est même pas au courant.
Mais...
On a fait ça un petit peu en douce.
Voilà, dans son dos, sans rien lui dire.
Voilà, c'est moi qui ai eu l'idée, j'ai lancé l'idée.
Voilà, donc moi j'ai aidé Lent et puis on a recruté un petit peu du monde aussi.
C'est moi que tu as aidé.
Oui, je t'ai aidé, mais j'ai recruté.
Ah oui.
J'ai recruté du monde après derrière pour qu'on
oui,
fasse...
Moi aussi j'ai parlé avec les membres de la team par derrière.
Et okay. Tout simplement, donc on annonce la sortie
des chapitres 1 et 2 de Child Epicurean.
Epicurean pour la team Seiyoku.
Voilà.
Donc les liens seront disponibles très rapidement.
Très bientôt.
Donc 1er ou 2 janvier.
Voilà.
C'est quoi ce truc?
Et ben ouais, voilà, c'était la surprise du jour.
Je savais que vous manigancez quelque chose, mais alors...
Voilà, c'est un projet de Haruka Minami. Bon, j'ai eu les scans anglaises il y a un petit moment. Donc
que je
j'ai...
me suis amusé à cleaner les deux chapitres.
Et que moi aussi, je me suis amusé à traduire.
Et que Tenshineko a édité.
Voilà, donc en fait, on était un petit peu tous dans
vous
le coup.
Voulez, là.
On a fait ça en 15 jours à peu près.
En 15 jours, on avait terminé. C'est pour ça que Pierrot et moi, on disait qu'on
avait marre.
C'est pour
ça que toi, tu me passais des projets en plus à faire que je t'ai fait en plus. Donc j'ai travaillé toutes les nuits blanches quasiment. Je ne t'en rendais pas compte.
Et c'est pour ça qu'on disait qu'on en avait marre du Haruka Minami, qu'on en faisait une overdose. Voilà. Je te jure que là, on va en faire des cauchemars.
J'ai fait 50 pages de clean de Haruka Minami. Tu me passais en plus des projets à côté de Koito, Zoto Paito, je sais pas quoi. J'en avais marre. Tu me passais du clean et en plus j'avais Haruka Minami.
Ouais, donc on a
c'est pas vrai!
Si, c'est vrai!
Donc voilà, je les ai eus, je te les ai même.
Tout est fait, les crédits.
On a tout fait.
Dans mon dos!
Dans ton dos!
Exactement. Je t'ai piqué l'image des crédits, à ton avis, pourquoi? Pour te faire les crédits?
C'est pas voilà,
les
c'est
la. Sont faits, la page HTML est free, il y a juste à la mettre sur le site et c'est bon.
Voilà, c'était la grosse surprise du jour, donc voilà, on a un petit peu instigé derrière ton dos.
Le 3 est en cours aussi.
Et le 4 aussi.
Et voilà, le 4 est traduit. En fait, 3, 4, 5, c'est ça ? Non, le 4, il n'y a pas de 4.
Il n'y a pas de 4.
Mais le 2, 3 et 5 sont traduits.
Ça a été traduit juste
voilà,
pour l'instant.
Clean, moi, j'ai commencé le clean 3.
Voilà.
Et bah si. Si tu veux, on te montrera tout à l'heure. Ils sont finis.
Ouais. Voilà. On a une laine dans tous ces états. Ouais.
Au bord des larmes, hein, on peut dire ça comme ça.
Ouais.
Voilà, donc c'était son petit cadeau.
Donc, bon, là, c'est la fin du Flash Info.
Hanabi, la première radio Yaoi.
Bon, après une petite pause pour me remettre de mes émotions, hein. On devait faire le petit horoscope, mais bon, je rappelle pour ceux qui n'ont pas tout compris avant, il y a Pirou et Étoile qui m'ont fait une surprise, avec l'aide de Megetsu et Tenshineko. Pour la team Seiyoku qui m'ont fait une sortie dans mon dos, ils ont traduit oui voilà hein, ils ont traduit le chapitre 1 et le chapitre 2 de Child Epicurean de Haruka Minami dont je suis fan hein, si vous n'aviez pas compris.
Ouais mais Haruka Minami si on la voit on l'égorge.
Ah non mais c'est clair, on lui fait sa peau.
On n'en peut plus d'Haruka Minami.
J'ai rêvé d'elle pendant 3 nuits.
Cauchemardé d'ailleurs par exemple.
D'ailleurs oui.
Bon d'accord. Mais vous m'aimez beaucoup, hein, donc vous allez prendre sur vous, et
pour bon, vous fait la sortie.
Oui, voilà. Vous avez prévu de faire tout le volume en plus, non?
Ouais,
on avait prévu.
On en a pas plus.
Mais on va continuer.
Ah, oui.
Ah mais oui, hein, j'y compte bien.
Voilà.
Bon, voilà, donc on va passer au horoscope. Donc, au passage, je vous remercie tout le monde, hein, Megetsu, Tachineko,
ouais,
voilà, même vous deux, hein, je vous remercie.
Ouais, mais Megetsu, si tu nous écoutes, ben, on a oublié de mettre ton nom dans le chapitre 2, alors que c'était la... Voilà. T'as traduit, donc...
C'est pour ça qu'on s'excuse et qu'on
voilà,
te remercie ici.
Et on te remercie beaucoup parce que sans toi, le chapitre 2 n'aurait pas pu être sorti.
J'avais une overdose, d'accord, on a compris.
Oui, mais voilà. Il fallait que je le dise.
Voilà, ça, c'est normal de le dire. Donc là maintenant, bah, on va passer l'horoscope. Donc
oui.
Par Étoile.
Bélier, que vous soyez s'aimer ou ok, le diagnostic sera le même. Lorsque vous vous mettez une idée en tête, impossible de vous en défaire. N'essayez pas de lutter, ce serait peine perdue. Mais faites attention à votre pied ou à votre sommet qui pourrait souffrir de cette situation.
Taureau, loin de vous déprimer, les basses températures vous offrent un enthousiasme à toute épreuve. Vous êtes le genre à sortir sous la neige et aller faire des batailles de boules de neige. Si vous êtes sémé taureau célibataire, pourquoi ne pas tenter une aventure avec un hockey cancer, qui serait le compagnon idéal pour vos jeux. Taureau hockey célibataire, il est recommandé de vous consacrer du temps. C'est le moment de vous ressourcer.
Gémeaux, la plus grande prudence est conseillée pour les Gémeaux. Convaincus de la justesse de votre raisonnement et de votre action, vous n'en voyez pas la plupart du temps les conséquences. Gémeaux ayant leur moitié, n'oubliez pas que vous êtes deux dans le couple. Les Capricornes auront une influence positive sur vous.
Cancer, avec le froid de l'hiver, vous sentez une frénésie vous envahir. Vous ne faites pas les choses à moitié. S'aimer en chasse, votre hockey idéal sera la balance qui vous freinera un peu dans votre folie des grandeurs. Hockey en quête, votre dynamisme est absolument compatible avec l'enthousiasme d'un sémé taureau.
Lion, particulièrement prisé par les natifs de l'été, affaibli par les basses températures, votre rayonnement enchante votre entourage. Vous n'êtes nullement affecté par le climat, votre calme et votre sérénité sont votre atout. Et c'est tant mieux. Sans doute devrez-vous faire quelques compromis avec vos proches, mais vous êtes conciliant et compréhensif. Lion célibataire, tentez votre chance.
Vierge, le froid ne vous va pas. Rien ne va pour vous. Vous faites des plans, mais toujours quelque chose vient vous empêcher de les réaliser. Vous recherchez la présence du lion, avec son caractère rassurant, et de la balance, pour qui la chance sourit, qui sont des signes proches de vous. Essayez de positiver, les taureaux seront le meilleur remède anti-déprime.
Balance, calme à l'horizon, profitez de vos vacances d'hiver. Si vous êtes célibataire en chasse, vous aurez quelques ouvertures avec le cancer.
Scorpion, s'aimer ok, prenez garde. Cet hiver pourrait être fatal pour votre relation, si vous êtes en couple. Des choses insignifiantes vous perturbent, et vous ne disposez que de seul moyen de défense, l'attaque. Alors que votre compagnon ne cherche qu'à vous aider, vous l'envoyez balader. Si votre compagnon est un poisson ou cancer, sachez que cela l'affecte grandement. N'oubliez pas de réfléchir avant de prendre des décisions.
Sagittaire, loyal envers vos amis, est terriblement dévoué pour la personne que vous aimez, mais n'en faites pas trop, cela pourrait l'étouffer. Affinité particulière avec les poissons dont la nature de votre relation sera floue.
Capricorne, la tête sur les épaules, vous gardez votre sang-froid malgré la folie de cette nouvelle année. Quoique, l'idée de faire une fête avec vos amis et votre famille est plus que tentante. Voilà qui sera l'occasion de resserrer les liens avec vos proches. Attention, les béliers risquent de vous agacer si se sont mis martel en tête et que cela va contre vos intérêts.
Verseau, vous ne craignez absolument rien. Le courage est votre force et vous porte loin. Ne serait-ce pas l'occasion pour vous de vous découvrir de nouvelles occasions, de nouvelles choses et de vous épanouir personnellement? Verseau en couple, il ne faut pas que votre passion vous emporte au point de négliger votre partenaire.
Poisson, si vous êtes aimé, l'hiver est l'occasion pour vous de vous consacrer à vos passions. Vous aimez le dessin? Pourquoi ne pas vous lancer dans la création d'une toile? Néanmoins, prenez garde à ne pas négliger votre hockey, surtout si c'est un lion. Hockey, qui dit hiver dit « allez sous la couette ». De plus que jamais, vous avez besoin de proximité et d'amour, sans trop abuser bien sûr. Prenez garde à ne pas vous laisser trop aller, surtout si vous êtes célibataire. Conclusion de l'horoscope septembre-décembre 2009, c'est l'hiver, sortez couvert.
Bon, et puis on attaque directement avec les remerciements.
Voilà.
On a fini enfin cette émission.
Ça a été laborieux quand même.
Très laborieux, on devait la sortir
avant 2009. Mais bon, finalement on va la sortir au 1er janvier 2010 quoi.
Ouais, parce qu'on pensait en fait la sortir, enfin la finir en quelques avant, heures.
En fait. Ouais, et en fait là on y est depuis 13 heures.
Deux jours.
Ouais, mais on a commencé à 13 heures l'enregistrement vraiment.
Ah oui,
ouais.
13 heures, et là il est presque.
Il est une heure. Il est
non,
une heure.
Il est une heure et quart.
Pardon, il est une heure et quart.
Donc voilà.
1er janvier 2010.
Voilà.
Voilà, chers auditeurs, on veille jusqu'à cette heure-ci pour vous faire radio.
Voilà. Puis même, ça nous fait plaisir de la faire aussi. Quoi. Bah, on s'amuse bien, on rigole, on s'engueule.
Oui, un petit peu, beaucoup.
Beaucoup d'émotions aussi de la part de Lane.
Oui.
Ah, on va bien dormir ce soir.
Oui.
Voilà, donc on va remercier tout d'abord Nine, qui nous a fait notre bannière en deux jours.
Sublime.
Sublime, voilà.
Ouais, magnifique.
Voilà.
Ensuite, Hypnos Prod, qui nous a fait les jingles, magnifique jingle.
En quelques heures, 5-6 heures à peine, ils étaient faits déjà. Donc, merci
beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Efficace, rapide. Voilà.
Ils sont très professionnels. Ensuite, on remercie Cyrielle qui nous a fait, c'est notre chroniqueuse de l'horoscope. Hein,
ouais, c'est ça qui nous a fait l'horoscope. Bon, ouais. Si vous n'êtes pas content avec l'horoscope, vous allez voir Cyrielle. Hein.
Ouais, pas nous.
Pas méchant.
Donc après, on remercie les membres du forum pour leurs encouragements, leurs petits messages sur le livre d'or. Sur les fils pour un habit, tout ça, c'est vraiment gentil, ça nous motive encore plus.
Ouais.
parce qu'il y a des gens qui ont pensé sur le livre d'or qui sont pas surpris. Hein.
Ouais, aussi. Oui. Ouais. Donc c'est vrai que ça nous motive pour tout le monde, pour les gens du livre d'or et les membres du forum et aussi les membres qui ont posté sur le forum et pas forcément ceux qui sont pas forcément du forum. Quoi.
Ouais.
Donc vraiment, bah merci pour ces messages. Ça nous fait plaisir de voir que des gens suivent quoi.
Et qu'on est soutenu
de Hanabi. Quoi.
On est soutenu,
on est des petits amateurs,
ça nous fait plaisir. Hein.
Voilà, donc c'est vrai que d'ailleurs, si vous remarquez que la qualité est pas forcément très bonne, bah, on a essayé de faire notre mieux. Voilà, on sait pas faire marcher une table de mixage, ni rien. Il y a deux jours, on savait pas comment ça fonctionnait.
Ouais, alors on a tout appris sur le tas.
Voilà, donc bon,
soyez indulgents.
Ça s'améliorera sûrement au fil du temps, mais ouais. Voilà.
La première émission, soyez indulgents. On ne peut que s'améliorer de toute façon.
On espère aussi que le planning vous aura plu. Hein.
Oui. Et d'ailleurs, bah, pour cela, on va vous montrer, on va vous dévoiler un petit peu ce qu'on va faire dans l'émission du mois prochain.
Donc,
on va commencer par Silent Love, le manga qui sera publié normalement, qui va être publié
ouais.
En janvier.
Oui, il sort en janvier.
Voilà. Qui est en 3 tomes. On va en discuter un petit peu.
On va continuer sur l'anime Our Road of No Return, qui n'est pas vraiment connu, mais qui est sorti déjà. Bien en français, donc on va en parler dans la prochaine émission, donc ne nous ratez pas.
Et enfin, on va parler d'un auteur qui est Makoto Tateno. Hein.
Qui est quand même très connu.
Elle a fait Yellow.
Ouais, donc.
Qui est sorti déjà chez Asuka.
Ouais, sorti, terminé, série finie.
Magnifique manga.
C'est un auteur très connu, donc on avait envie de la faire, voilà. On se fait un petit peu plaisir, hein.
Et puis ben, pour vous dire au revoir, on va vous laisser sur une musique l'étoile va nous dire.
Qui est Does Not Wither de Terashima Takuma. C'est une chanson issue du caractère vocal de Papa to Kiss in the Dark. Donc on va vous laisser sur une bonne année à tout le monde.
Oui, bonne année.
Que 2010 vous apporte plein de bonnes choses.
Surtout la santé, hein, parce qu'il faut avoir la santé pour lire.
Oui.
Il faut avoir la santé pour lire du yaoi, tu vas pas lire du yaoi.
Oui, mais il faut du yaoi pour le relire aussi.
Dans un lit d'hôpital, on peut lire du yaoi. Hein.
Oui, mais si tu claves, tu sais comment.
Il faut du yaoi.
ない風に抱かれて揺れる花のように失って初めて今悲しみに気づいてゆく寄せては返す波のよう一人の部屋で君はいつも悲しそうな瞳で僕を見つめて僕は今も君を求めてるずっとずっと忘れない悲しみ心の中新しい扉開け僕は生きてゆく心に愛の花をずっと枯れないように出会わなければ心の花は枯れていた何も見えない寂しくて壊れそうさ涙の訳もわからず孤独を抱いて眠るよ思い出の中戻れるなら後悔しない 約束さえも守ってあげる。この目を見て僕を信じてよ。いつの日にも君がいて、それだけ望むのさ。昨日の過ちも全て忘れ去る。心に愛の花をずっと枯れないように、夢ならば覚めないで胸が張り裂けそう。